Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur le 236e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 12 mars 2015 et au programme de ce soir du Marvel, de l'Indé et du DC pour les sorties comics de la semaine avec notamment la nouvelle série War the Duck, la grosse révélation dans le New Avengers 31 ou encore la suite de Spider-Gwen. Nous parlerons aussi de la nouvelle série de Cullen Bunn qui visiblement continue d'écrire des nouveaux projets, la nouvelle série Ninjak ou encore le one-shot Spawn Resurrection. Et enfin, chez DC, Action Comics et Batman Eternal au programme. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Moi ce soir pour vous présenter tous les nouveaux comics de la semaine, Bruno.
Oui, salut à toutes et à tous.
Et Mister René Bunny.
Bonsoir à toutes et à tous.
L'homme qui n'a pas de zizi. Parce qu'il fallait que je trouve une rime et j'ai trouvé que ça.
Ça commence bien.
Bah, il y en a un qui sent la cacahuète et l'autre qui n'en a pas. Donc.
Ah bah je préfère sentir la cacahuète.
Bah, c'est la continuité interne au podcast. Pour comprendre la blague sur les cacahuètes.
Non, ça sent pas, en plus, c'est un goût de cacahuète.
Ah oui, c'est vrai, c'est un goût de cacahuète. Allez écouter les podcasts d'il y a deux mois.
Tu rajoutes des pouvoirs, là.
N'importe quoi.
Parce que oui, c'est un pouvoir.
Peanuts Man.
Et avec un peu de chocolat, ça fait M&M's. Et voilà.
Ah, Peanuts, attends, franchement, ça fait un putain de jeu de mots, en fait. Tu l'écris comment, Peanuts?
Oh putain. Bon bah je crois que là encore une fois on a trouvé notre sketch d'avant émission hein.
Ouais mais c'est bizarre parce que ça, c'est vraiment toujours en dessous de la ceinture hein.
Bah, il faudra qu'on
s'élève un jour.
Il y a quelque chose
c'est
au-dessus
comme
ou pas
le... Bah on s'élève tout le temps enfin. Mais on s'érectionne souvent. Mais par contre non mais nous ça pourrait devenir comme notre cochon d'Inde là. Il y a Bruno qui arrive qui se fait je suis du peanut man.
Le violon d'Inde tu veux dire.
Ouais, c'est cela, oui. Il a fait beau aujourd'hui quand même. Il a fait beau.
Oh là, putain.
On n'est pas habitué à ce temps-là en mars, hein. Giboulet de mars. Il a quand même fait beau.
C'est cela, oui.
On a une émission à faire peut-être.
Peut-être.
Je pense qu'il est temps de démarrer avec du Marvel.
C'est cela, oui. Marvel.
Mais en même temps, on est dans le what the fuck le plus total, puisqu'il s'agit de War the Duck, la première review de la semaine. War the Duck numéro 1, qui revient donc pour une nouvelle série, avec aux commandes, cette fois-ci, Joe Quinones au dessin, et Chip Zdarsky au scénario. Putain. Je me demandais pourquoi. Déjà, ça commence avec une référence à Smashing Pumpkins.
The world yes. is a vampire.
Ah oui non mais voilà, on sent qu'on est pour un public pour un public plus âgé. Clairement, c'est déjà pas un comic qui va plaire à des jeunes, je pense, de 15-16 ans quoi.
Bah est-ce que War the Duck n'est pas une référence quand même sacrément du passé qui demandait à être un peu dépoussiéré et du coup, il y a quand même un gros côté rétro, j'ai trouvé dans cet épisode.
Moi ce qui me gêne, c'est qu'il vient après Guardians of the Galaxy. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour sortir un comic au War the Duck?
Ah, après le film, tu veux dire.
Parce qu'il a été repopularisé après le... Ah oui, enfin, tu veux dire après le film. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre autant de temps?
Non. Pourquoi il a fallu attendre après le film?
Mais
je pense qu'on aurait très bien pu faire du War the Duck avant.
Tout simplement de... Justement, il y avait une friction entre Disney et Marvel, et que maintenant que Disney a racheté Marvel...
Disney a racheté Marvel il y a 4 ans. Hein,
ouais, mais bon... C'est vrai qu'il aurait pu revenir plus tôt. Mais là, effectivement,
attendre...
ça surfe sur le succès du film Gardien de la Galaxie.
Parce qu'il y avait un couac. Voilà.
Ouais, voilà.
Au moins, ils ont pu placer la référence à Donald sans problème de légalité.
Oui.
Cette fois-ci. On va quand même parler de l'histoire. Howard est bien sûr dans l'univers 616, se retrouve une fois de plus en tôle. On ne sait pas trop pourquoi, puis on s'en fout en fait, hein, surtout.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que j'avais l'impression, je me suis dit. Est-ce qu'ils vont nous faire une espèce de remake du film pour cette première arc? Parce que ça me faisait vraiment penser à ça. Parce qu'il me semble bien que dans le film des années 80, là, il est aussi en tôle.
Bah, de toute façon, c'est même dit directement dans le résumé, hein, qu'il a tout été. Hein,
il y a plein de références au film.
Un ninja alloué, qu'il a été un candidat à la présidence et surtout qu'il a même été dans un film de George Lucas.
Ouais, c'est surtout ça. Ouais.
Donc voilà, des références très méta, quoi. Oui, quel film.
Quel film ? Je crois qu'il va ressortir en DVD, Blu-ray,
en
peu de temps.
Ouais, ça m'étonne pas, vu le renouveau du personnage. On adresse aussi énormément la continuité avec le fait qu'on voyait très bien la fin de la série She-Hulk, qu'on a pu lire il y a 2-3 semaines, qu'Howard the Duck venait s'installer dans le même bâtiment qu'elle. Et bien là, il rencontre She-Hulk, qui est d'ailleurs son avocate. Enfin, quand elle y pense.
Logique.
Ouais.
Mais c'est bien d'avoir adressé la continuité.
Oui, et puis ça peut faire si on la voit dans d'autres numéros plus tard, ça peut faire un bon duo parce que j'aime bien la relation qu'il y a entre les deux justement.
Ouais.
Avec ce côté très aigri de She-Hulk vis-à-vis de Howard the Duck, qui est tout le temps énervé en plus. Ce pauvre
et puis c'est la She-Hulk vraiment du run de Charles Soule, puisqu'on a aussi son assistante avec son petit singe. Enfin voilà, c'est
le cast, ouais, référence à L4, des références rigolotes aussi.
Non mais voilà, quand je parle de continuité dans les titres Marvel, c'est ça que j'attends. Juste ça. On n'a pas besoin de tout référencer, mais au moins, voilà, une série qui s'est terminée il y a 2 semaines a une continuité dans une série qui continue, dans une nouvelle série qui sort là maintenant. Je trouve ça bien. On sent qu'on est dans un monde interconnecté et on n'a pas besoin de plus.
Même dans le ton et puis graphiquement. Hein, graphiquement, on est quand même assez proche d'un She-Hulk, quoi. Mmh.
Donc Howard va être engagé, hein, puisqu'il est détective privé, va être engagé par un mec qui a l'air un peu louche, hein, qui a l'air d'être un ancien agent du SHIELD, honnêtement, dont je ne retrouve pas le nom, mais qui m'y a fait énormément penser. Malheureusement, son nom m'échappe encore.
Monsieur Richard.
Non, mais je parle de l'agent du SHIELD avec cette lunette... regardez bien ses lunettes, une lunette qui est complètement noire d'un côté.
Ah mais c'est Jonathan Richard, il s'appelle.
Le personnage
Richard, Jonathan Richard.
Oui, mais je parle de l'agent du SHIELD auquel il me fait penser.
Ah ok, il me fait penser à lui.
Je n'arrive pas à trouver le nom.
Nick Fury.
Non, pas Nick Fury justement. Mais enfin bon, c'est pas grave. Donc il est engagé par ce monsieur pour retrouver un collier qui lui a été dérobé, mais dont la police ne veut pas s'occuper puisqu'il a été dérobé par Black Cat. Il va donc faire appel à celui qui connaît le mieux Black Cat, Spider-Man, qui lui dit non, j'ai pas envie de t'aider. Donc il va se démerder tout seul.
Et puis c'est un vieux Spider-Man tout pourri aussi. Hein. Spider-Man à la con.
Ah bah
moi,
c'est un Spider-Man qui est vraiment, oui, bah, comme tu as dit, tout pourri quoi. Clairement, l'auteur se fout de la gueule de Spider-Man. Hein.
Bah, c'est surtout un Spider-Man super rétro dans son comportement aussi. C'est un Spider-Man qui s'apitoie sur son sort, et ce qui m'a fait mourir de rire, c'est la scène finale.
Elle est énorme, la scène finale.
Elle est énorme, c'est clair.
C'était ridicule.
Moi, oh, c'était trop drôle.
C'est un comique qui, j'ai pas ri à gorge déployée la plupart du temps, mais alors cette scène-là m'a bien fait marrer, et voilà, enfin il y a des petits gags bien sentis, mais c'est plus des références. À mon avis, il faut vraiment être quand même certainement connaisseur de Marvel et puis avoir déjà lu pas mal de choses pour vraiment apprécier ce comic quand même.
Et pas que, hein, même avoir une certaine connaissance de la culture pop en général d'au moins ces 30 dernières années. Quoi.
De la vie, tout simplement.
La séquence training montage, etc., ouais, qui rappelle les Rocky, les mecs habillés en pizzaïolo, jusque dans le t-shirt.
Y a, en plus, avec les dessins de Quiñones, c'est vrai que ça passe super bien, ce côté cartoony fun. Et moi j'avoue j'ai pas mal rigolé hein, quand même. Il y a des scènes qui m'ont bien fait marrer et je trouve que le Howard est dessiné vraiment super quoi. On voit le mec blasé et tout qui fait plein d'humour, plein de second degré et rien que par exemple sa publicité qui passe au cinéma.
Ah mais c'est énorme.
Je trouve ça énorme quoi.
C'est énorme. La première référence est juste énorme. Après la référence à Donald.
Voilà.
Non mais enfin voilà, il y en a pas mal. Moi franchement, la première référence m'a fait vraiment beaucoup rire aussi.
Ouais, non, c'est énorme.
Pour les connaisseurs d'humour américain notamment. Bref, voilà, il va se retrouver dans une situation encore pire que poursuivi par Black Cat et un tandem que l'on attendait tous.
Ouais.
Qui m'a fait un peu chier, j'avouerai quand même, ça m'emmerde que ce soit déjà ça, mais bon. En même temps, j'ai quand même envie de voir parce que c'était tellement bien créé. Le tout truc, c'est que c'était un comics que j'avais envie de détester. d'entrée de jeu, j'avais envie de détester ce comics-là. Pour moi, c'était vraiment ultra commercial de sortir ça maintenant. C'est comme par hasard, depuis que Howard the Duck est apparu dans la scène post-générique de Guardians of the Galaxy, alors que la majorité des gens qui l'ont vu ne le connaissaient pas, on sort un comic Howard the Duck quelques mois plus tard, et les gens, on espère que les gens vont se jeter dessus parce qu'ils l'ont vu dans Guardians, et je me disais, putain, c'est complètement antinomique par rapport au personnage, quoi. Et pourtant, ça marche. Je suis dégoûté, j'ai envie de le détester, mais je peux pas.
Ouais, non, mais c'est... Moi, par contre, j'avais vraiment envie de le lire, et justement, ça me faisait marrer de relire du Howard the Duck, enfin, même d'en lire, d'ailleurs, puisque, bon, bah, c'est un personnage que j'ai très peu lu, finalement, mais vraiment, ça m'intéressait, et je me suis même dit, enfin, il revient, quoi, dans une série régulière, donc c'est cool. Ouais, enfin, voilà, mais je trouve qu'il y a un côté vraiment très rétro, un petit peu... l'auteur a adopté la manière qu'on avait d'écrire, à mon avis, les aventures de Howard the Duck à l'époque, quoi. Donc c'est un petit peu un titre qui parlera plus aux lecteurs qui ont commencé à lire des comics dans les années 80-90, à mon avis.
Oh, j'ai pas noté trop, moi, ce côté rétro. Moi, je trouve qu'au contraire, bah, les
dialogues,
je les ai trouvés très très modernes, très fun, très comédie, quoi. Et je trouve que Chip Zdarsky, justement, qu'on connaît plus pour le côté dessin sur Sex Criminal, par exemple, j'ai une totale confiance là maintenant pour la suite, parce que le premier numéro, déjà, je l'ai trouvé très dense. C'est-à-dire que on n'a pas cette sensation sur un numéro 1 d'avoir peu d'informations et pas suffisamment d'intrigues. Là, on a carrément tout un nouveau cast de personnages qui est présenté. On a un personnage qui va faire équipe avec Howard the Duck, je pense qu'on va revoir, et qui est assez intéressant et assez amusant. On a deux intrigues en parallèle, et puis voilà, pas mal d'humour, pas mal de références à la continuité. Et donc vraiment, pour moi, c'est vraiment pari gagné sur ce numéro 1. Effectivement, qui fait un peu arriviste, puisque il profite du succès des gardiens. Et puis, comme tu dis, Steve, c'est un peu gênant qu'il arrive que maintenant. Mais vu comme
même,
ça,
je veux
comme
dire,
il arrive,
je veux dire, c'est ce tandem final, quoi. Si c'est pas encore plus profité du truc.
Voilà, il y a ça, et puis il y a aussi au final la personne qui les récupère. C'est très film, quoi. Mais voilà, c'est pas parce qu'ils font des références au film que l'histoire n'est pas bonne, mais j'espère qu'après ils vont s'en détacher un petit peu. Et en tout cas, ce premier numéro, je me suis bien marré, et je regrette vraiment pas mon achat.
Mais n'est-ce pas justement parce que va y avoir la sortie en Blu-ray qu'ils nous font autant de références au film, tout simplement.
Elle est déjà sortie.
Non, mais on parle des références au film Gardien de la Galaxie, pas au film Howard the Duck.
Ah oui, mais pardon. Ouais. Mm.
Mais non, vraiment, bonne lecture. Mm. Bah, pour moi, ce sera un bail.
Ben oui, j'avais envie de le détester, j'avais envie de mettre un gros pass commercial, etc. Non, c'est très bon, achetez-le, bail, quoi, vraiment.
Ouais, bah, moi, je dirais la même chose, achetez-le avec une réserve que ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, surtout au niveau des références. Donc bon, voilà. Allez-y si vous avez déjà un certain bagage quand même de lecture comics, et puis en Howard the Duck, si vous avez vu le film, par exemple.
Ouais, non, voilà, c'est vraiment une lecture à réserver à un public plus adulte, ouais. Pas de par ces scènes trash ou quoi que ce soit, juste de par les références et tout, quoi. Vraiment un public de personnes qui ont au moins 25-30 ans, quoi. On continue avec toi, Bruno, tu vas nous parler du Thor numéro 6, Thor numéro 6 qui a fait beaucoup gueuler Jonath hier soir, hein, Benny.
Ah, pourquoi?
Ah oui, bah une grosse blague, oui. Bah parce que la couverture laisse à penser qu'on découvre qui est cette mystérieuse nouvelle Thor, et au fait, non.
Ah bah on le sait quand on avait lu les sollicitations, qu'a priori
oui.
La réponse on ne l'aura qu'au mois de mai.
On l'aura dans le 8, oui, mais si tu
oui,
n'as
mais...
pas lu les sollicitations, enfin on te
alors,
dit sur la cover
après,
qui est Thor, quoi, et on t'a absolument pas la réponse.
Alors donc c'est écrit par Jason Aaron avec Russell Dotterman au dessin, et pourtant moi je trouve que le comics joue bien ce rôle, puisque on s'intéresse à Thor, qui enfin Odinson, qui essaie de découvrir qui est justement la nouvelle Thor, et donc
oui,
il va.
Alors justement, tiens, juste un truc, Bruno, tu vas y venir de toute façon dans ta review, mais justement, Jonath, qui l'a lu hier soir, nous disait la manière dont il a de entre guillemets d'enquêter, et il y a quand même un détail, enfin un truc qui est vraiment, enfin c'est plus qu'un détail, qui est sacrément ridicule, quoi, dans sa manière de faire.
Bah alors bah on va voir, moi je trouve que bah du coup en fait il s'interroge sur qui est cette nouvelle Thor, et pour cela en fait il va éliminer petit à petit qui sont les personnes qui pensent être justement sous le casque.
Mais est-ce qu'il a besoin d'un calepin? Est-ce qu'il a vraiment besoin d'un calepin Parce qu'il est, est-ce qu'il est suffisamment con, enfin est-ce qu'il a Alzheimer ou quoi que ce soit, pour devoir cocher tous les noms qui sont à éliminer, quoi, entre guillemets. Ça, c'est vraiment un
Franchement,
truc, tu vois.
Ça m'a pas du tout gêné. Je trouve ça rigolo, même à la rigueur. Il a une liste de noms. Il les rature à chaque fois qu'il sait que c'est pas eux.
Ça, c'est quand on fait les courses, quand on est un papy, une mamie, on a peur d'oublier d'acheter des pâtes. Mais quand on est un super-héros et qu'on a toute sa tête.
Bah, moi, je trouve qu'au contraire, le coup du papier et du crayon, c'est très tort. Effectivement, il aurait eu son iPhone avec sa liste marquée dans l'iPhone, ça aurait peut-être moins choqué
parce
que c'est plus
moderne. Il y a même pas besoin de liste. Tu te souviens quand même de qui est suspect, qui ne l'est pas.
Bah, je sais pas. Moi, ça me choque pas. Moi, je trouve ça bien d'avoir une trace de.
J'ai l'impression qu'on prend les lecteurs pour des neuneux.
Ouais, c'est vraiment du chipotage de scénario.
Pour moi, c'est pas digne d'un Jason Aaron qui a écrit ce magnifique run avec les Thor présents et passés et futurs, quoi. Mais bon.
Après, bah, pourtant, moi, je trouve que c'est. En fait, je trouve là sur ce numéro-là, Jason Aaron en plus se met à la place du lecteur, puisque du coup, il imagine petit à petit quelles suppositions les lecteurs se sont fait sur l'identité de la nouvelle Thor, et il va les démonter petit à petit pour arriver au final sur une possibilité qui reste la possibilité la plus importante et qui effectivement on n'a pas la réponse finale si oui ou non c'est bien cette personne, même si ça tend probablement à le devenir. Alors on aura peut-être une surprise, mais voilà, il élimine déjà énormément de personnes qu'on pensait peut-être être sous le masque, et ça, je trouve que c'est assez malin, tout
mais
en développant
quand même que la cover est quand même sacrément mensongère, quoi. Parce qu'avec un Who is Thor sur la cover, tu t'attends à avoir la réponse. Franchement,
je suis pas d'accord.
C'est
parce
implicite.
Que Who is Thor, c'est le questionnement. S'il y avait marqué Thor is revealed, pourquoi pas? Mais là, c'est qui est Thor, et là, voilà, il y a plein de possibilités.
Ah, je trouve que c'est implicite, quoi. Pour moi, il y a quand même sacrément tromperie sur la marchandise.
Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé, parce qu'en plus, au-delà de cette question sur l'identité de Thor, il y a pas mal de choses qui se développent au niveau du scénario. On va apprendre quelles sont les origines du patron de Roxxon, qui est un Minotaur. On va découvrir comment il a eu ses pouvoirs. On apprendre un petit peu plus aussi sur son caractère, qui est quand même assez extrême.
C'est l'acteur là qui joue Thor là, comme c'est un Minotaur.
Et qu'il a des façons assez extrêmes de gérer ses ennemis. Il y a une scène assez choc que j'ai trouvé assez sympa. Et on va en apprendre un peu plus sur son pacte avec Malekith. Et bah voilà, l'histoire avance bien avec une confrontation finale qui nous amène peut-être sur la future identité de la nouvelle Thor, et un combat qui s'annonce assez intéressant avec un personnage important de l'histoire asgardienne. Graphiquement, Dotterman, je trouve qu'il s'améliore de numéro en numéro. C'est bourré de détails. Les planches sont vraiment magnifiques. Et voilà, j'ai adoré ce comics. Et pour moi, c'est vraiment un bon gros bail. Et j'adore ce run de Thor pour l'instant. Et,
oh,
et c'est
non,
la
digne
suite
non,
de ce que faisait Jason Aaron avant la période de la nouvelle Thor, quoi.
Et puis de toute façon, tu t'as dit, il s'est mis à la place du lecteur. Et bah, faudrait peut-être qu'il se mette à la place du scénariste. Voilà.
Putain, l'argument le plus mauvais de l'histoire.
Ah non, c'est un super numéro, donc un bon gros bail.
C'est de la merde, c'est tout.
On va continuer avec toi justement, Benny. C'est peut-être ce comic-là qui t'a beaucoup perturbé cette semaine. Supérieur Iron Man numéro 6.
Ouais, Supérieur Iron Man, pourquoi ça m'a perturbé, non? Supérieur Iron Man 06, oui, enfin numéro 6. Tom Taylor est au scénario. Laura Braga est au dessin. Et Guru IFX est à la colorisation. Voilà. J'imagine que c'est son vrai nom, bien entendu.
Surtout un collectif, oui.
Oui. Donc, c'est Tony Stark qui est toujours aussi corrompu par son extrémis et qui essaye au fait de rentrer en possession d'entreprise par des moyens assez malsains.
Voilà. Il a obtenu SF, enfin donc San Francisco, et il passe à la prochaine étape de son plan. Posséder le monde, et par quoi ça passe, d'après vous, posséder le monde aujourd'hui? Ça vous laisse deviner quel type de compagnie il essaie de racheter.
Voilà, des compagnies de télé-réalité. Parce que voilà, c'est ce qui marche en ce moment. Non, pas du tout, mais...
T'es pas loin.
Oui, ouais, enfin bon.
Bah, des compagnies de médias, hein, tout simplement.
Oui, des compagnies de médias, oui. Mais du coup, voilà, on assiste à ça. Et puis, de son côté, Pepper Potts, elle essaye justement de contrer Tony Stark et va s'engager une espèce de jeu comment dire, déjà sur la, enfin sur le front du légal dans un premier temps. Et puis ensuite, Pepper Potts va donner rendez-vous à Tony, et puis il va se passer quelque chose. Alors va-t-elle réussir à faire entendre raison à Tony Stark? Là
Bah,
est toute la question.
Pepper qui est toujours accompagné de son allié, cette espèce d'ancienne armure d'Iron Man, on ne sait pas qui est à
Ouais.
l'intérieur. On va avoir la réponse.
Bah, je fait moi je enfin je pense que c'était enfin qu'on le savait plus ou moins ce que c'était cette armure d'Iron Man.
Non.
En tout cas, moi je l'avais toujours compris comme ça, et la fin m'a vraiment pas surpris. Enfin, c'est je enfin j'ai pas vu de révélation à la fin, quoi. Bon, on verra.
Bah, le masque est tombé, quoi. On sait ce qu'il y a dedans.
Ouais, mais enfin, j'avais compris que c'était ça depuis le début, parce
Ah bon?
que
Bah,
c'était
moi, pas du tout.
sacrément suggéré, que c'était, enfin,
Attention, attention.
ouais, mais c'était sacrément suggéré. Enfin, moi, je trouve que c'était même pas un secret, quoi, en soi. Enfin bon, ou bien alors c'est peut-être moi qui ai lu
Non, c'est possible. Moi, en tout
plus
cas, je
qu'il
l'avais
l'ait
pas
dit,
vu. Moi,
quoi.
ça m'a bien. Enfin, j'ai bien aimé cette révélation, honnêtement.
D'accord. Toujours est-il que. Enfin, je m'attendais pas à quelqu'un, on va dire, d'humain, on va dire,
T'en
derrière
dis
cette
trop
armure.
là, t'en dis trop.
Ah bah oui, mais enfin,
Ah ben bah, les gens ont qu'à le lire. C'est on est là aussi pour leur donner envie de lire les
ouais,
choses.
bien
Et on
sûr,
va
bien
pas
sûr.
tout
Mais
spoiler, sinon les gens n'achèteront plus.
pour moi, c'est même pas du spoil dans le sens où c'était vraiment plus que suggéré, quoi. C'était obvious. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, bah Tom Taylor écrit vraiment cet Iron Man toujours comme une ordure, vraiment à la manière dont il avait d'écrire le Plutonien dans la série Redeemable.
Oui, sauf
Et
que c'était pas du tout Tom Taylor qui écrivait ça, c'était Mark Waid, mais c'est pas
ah ben oui.
Tu voulais sans doute parler de Superman
Dans Earth
dans
2.
Injustice. Dans Earth 2, bah oui,
Et
bah
dans Earth 2.
qui s'inspirait vachement de Mark Waid et d'Irredeemable, je trouve, dans le ton. Bah, enfin, l'exemple tient tout autant dans la mesure où, oui, effectivement, le Superman d'Earth 2, qui avait, pareil, peut-être quelques petites failles, des failles notamment qui viendraient là en l'occurrence de Lois Lane, bah là c'est de Pepper Potts. Donc voilà, donc on voit qu'il y a toujours un petit côté humain tout au fond de la carcasse d'Iron Man, quoi. Enfin, de la carcasse, de la carlingue, je ne sais pas comment le dire, de l'armure, quoi. Voilà. Donc non, mais c'est toujours très bon, même si on se doute bien que bon bah
Bah, ça tire à sa fin là.
ça, voilà, c'est ça, ouais. Voilà, ça pouvait pas durer non plus, quoi.
Non, parce que il peut pas d'une transformer à ce point le personnage d'Iron Man de façon durable, ne serait-ce que par la licence qui ne pourrait pas marcher. Et même, on peut pas suivre un anti-héros comme ça aussi longtemps, surtout dans un univers aussi partagé.
Bah là, il est quasiment aussi méchant que à l'époque de The Crossing, ce fameux crossover de ouf. Donc voilà, donc c'est sûr que Iron Man a bien changé, et il va falloir qu'il se fasse oublier pendant un petit moment.
Oui, non, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter, hein. Bon épisode, des méthodes de Tony bien pourries. C'est véritablement une ordure. On a juste une envie, c'est de péter les dents à coups de batte, mais voilà. De toute façon, c'était voulu, hein. Donc ça marche.
S'autoriser à sec avec une poignée de gravier.
Y a qu'une batte à pointe à clous rouillés.
Ah, c'est bien ça.
Ouais.
J'ai jamais essayé.
En ayant oublié de faire son rappel pour le tétanos.
Encore mieux.
Sinon, c'est pas drôle.
Bah oui, parce qu'il a les gemmes de l'infini, le tétanos.
Oh là
Oh!
là! Comic City représente bam.
Putain.
Bon,
C'est un
bah.
bail, c'est un bail.
Oui, c'est un
Pas cette vanne, on parle du comique,
bye.
hein.
Bon, ça là, c'est pas un bail, la vanne.
Non, c'est un passe total. Un bail pour toi aussi, Benny?
Oui, c'est un bye.
Allez, on passe à la suite. Il s'agit du Amazing Spider-Man Special numéro 1, qui est un petit crossover. Qui est un petit crossover entre trois séries, à savoir Amazing Spider-Man, mais aussi Inhuman et All New Captain America. C'est écrit par Jeff Loveness, qu'on retrouvera, on en parlait hier, sur la prochaine série Groot, avec un...
Croûte.
Ah, oui. et avec un dessin de Luca Pizzari, avec l'accent, s'il te plaît, l'accent qui est sorti de mon fond du trou du cul, parce que je ne parle pas du tout italien.
Pizzari.
Luca et... Pizzari, eh, yeah, Pizzari, la pizza qui rit.
Oh, putain.
Et faut que tu prennes tes cachets, hein, Tristan.
Oh, oh, fille d'identité secrète, on lui rien de foutre, hein, de toute façon, foutu pour foutu. Voilà.
Oh, cette émission de ouf. Peter a décidé d'aller acheter un café, enfin un burrito plutôt.
Quelle bite de merde.
Peter a décidé d'acheter un burrito. Voilà, c'est le sujet de ce comic. Non, bien sûr, ce n'est juste que la séquence d'intro. On voit qu'il est toujours aussi maladroit avec les filles. Et ben, il ne va même pas pouvoir déguster son burrito tranquille, puisqu'une armée de poilus à ailes va l'attaquer.
Bah, inhumain, hein, clairement, c'est dit sur la couverture, je pense que c'est ça.
Oui, oui, bah, c'est des espèces de vautours, de créatures qu'on
déplume. On dirait les singes du magicien d'Oz.
C'est des gargouilles un petit peu. C'est des gargouilles un petit peu aussi.
C'est un peu tout ça à la fois qui viennent l'attaquer alors qu'une cité flottante a débarqué au milieu de New York. Et il va pas trop comprendre ce qui lui arrive. Il va se faire bien déboîter la gueule jusqu'à ce qu'arrivent les inhumains qui vont l'aider et qu'il va aider aussi. Et voilà, je vais pas trop en révéler plus hein, sur le plot. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Tu vois quelque chose à rajouter, Bruno?
Non, c'est effectivement le plot de base et effectivement c'est assez simple. Mais,
alors dit comme ça, je vous assure, ça vend pas du rêve, c'est certain.
Mais l'histoire n'a beau ne pas être originale, l'originalité c'est l'écriture.
Putain, qu'est-ce que c'est bien écrit. Ouais. C'est incroyable. J'ai lu ça en me disant bon allez, je vais lire une merde, je vais la défoncer, c'est pas grave. Eh ben non. Eh ben je peux pas non plus. Ils font chier Marvel des fois. Hein.
Mais peut-être parce que Dan Slott écrit tellement mal Peter Parker que finalement, quand on voit un autre auteur l'écrire de temps à autre, c'est vachement mieux, quoi.
Non, je sais pas. Ce que fait Jeff Loveness tombe juste. Ça tombe juste. Il nous fait passer un peu comme on a un Spider-Man un peu beaucoup loser, hein, quand même, dans Howard the Duck. Bah, c'est le cas, là aussi. Le mec arrête pas de faire des vannes et tout le temps. Ça en est chiant. Et justement, les inhumains lui font bien sentir que c'est vraiment chiant.
Et c'est des vannes qui passent, pas toutes, mais il y en a qui m'ont bien fait marrer encore une fois.
Il y en a qui sont drôles, ouais. Il y en a qui sont drôles.
J'ai adoré la référence.
C'est ce qui est en train de se passer dans ce podcast, au fait, finalement.
J'ai adoré la référence aux Avengers et à San Francisco et ces choses-là.
Oui, ouais, il y a beaucoup de références assez méta quand même.
Ouais, ouais. Par contre, il y a pas mal de pubs aussi. Il y a beaucoup de marques qui sont nommées.
Oui. Ouais.
On a ça de plus en plus, je trouve, dans les comics.
On a beaucoup de
Marvel.
Branding, ouais. Mais Marvel veut s'en mettre plein les poches partout, hein, clairement. Le design du vilain, on va en parler deux secondes. C'est vraiment de la merde. Alors, mais le design du vilain, c'est vraiment de la merde. Imaginez le vautour avec des plumes rouges. Voilà. Ouais.
Mais c'est l'occasion justement d'avoir un Spider-Man qui fait 2-3 vannes par rapport à ça, mais.
Ouais.
Le vilain est encore assez mystérieux, mais même si effectivement son look est pas top.
Ouais. Je crois que une des choses qui m'a fait presque le plus rire, c'est le petit gamin qui ne sait pas qui est Spider-Man, qui passe son temps à l'appeler Blade.
C'est énorme ça.
Enfin, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Gorgon qui lui dit gentiment de fermer sa gueule quand même aussi, parce qu'il y en a marre de ces vannes qui sont pas drôles. Spider-Man qui comprend pas. Ça, par contre, ça m'a un petit peu dérangé. Spider-Man qui connaît pas Lockjaw, ça m'étonne.
Oh oui, bah non, il le connaît. Ah, il le connaît. Hein.
Bon, mis à part ça, voilà, il y a.
J'ai bien aimé, moi, les scènes où, en fait, ils demandent aux petits jeunes quels sont leurs noms de code.
Oui.
c'est marrant.
En se foutant bien de leur gueule. Non, mais en plus, bon, je pense que ne lisant pas la série Inhumain, tu vas justement me corriger, Bruno, mais je pense que ce sont le cast que l'on voit dans la série Inhumain.
Exactement, c'est tout à fait raccord avec ce qu'écrit Charles Soule dans son titre, que ce soit au niveau même du caractère des personnages. Donc, ce qui est plutôt cool, quoi. Il y a eu au moins Brian Trust entre les trois scénaristes. Enfin, non, entre. Je sais pas s'il va écrire tout.
En fait, Jeff Loveness écrit tout, ouais.
D'accord, bah il a vu avec les scénaristes des séries habituelles comment sont les personnages et leurs caractères, et ça c'est vachement
Il y a
bien.
eu un brain trust entre lui-même et lui-même.
Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est incroyable, les petits nouveaux arrivants là comme Chibzarsky qu'on a vu avec Howard the Duck ou Jeff Loveness comme ça font beaucoup plus attention à la continuité que des mecs qui sont établis là et qui dont c'est le job habituel, tu vois, ça devrait être, tu vois, automatique. Non.
Et tous ces petits jeunes qu'on va retrouver très vite
enfin,
sur
ces petits jeunes.
Secret Wars.
Jeunes, ils sont pas si jeunes que ça. Hein. Jeff Loveness, c'est pas jeune. Le mec écrit déjà depuis des années pour le Jimmy Kimmel Live Show. Je sais plus le nom exact. Enfin, pour Jimmy Kimmel.
C'est un gars qui vient encore des lives. Il y en a de plus en plus là. C'est pas le premier hein, qu'on entend. Gary Degan aussi, non, il vient de ça. Je sais plus.
Non, il vient du Jamel Comedy Club.
Il a fait des sketchs, notamment avec Brian Posehn. Notamment, il a pas mal écrit avec Brian Posehn. Brian Posehn qui a bien disparu d'ailleurs, hein.
Ouais,
j'écris plus en ce moment.
Enfin, mais finalement, Civil War, n'importe quoi, Secret Wars va être vachement bien du coup avec tous ces gens-là. Si ça tombe.
Non, parce que l'idée est pourrie au départ, donc ça restera pas bien. C'est justement, moi, c'est ce qui me fait chier, quoi. C'est que des mecs qui arrivent, qui pourraient faire des erreurs dont on pourrait leur pardonner justement parce que ce sont les nouveaux arrivants.
Non, mais regarde. Là, l'idée est quand même bien pourrie. Et finalement, la lecture est bien.
Il y a des trucs qui sont intéressants dans le sens où on se demande comment, par exemple, Captain America va être mêlé à tout ça. Donc peut-être au niveau du scénar, il y aura peut-être des twists et ça risque de pas mal se développer.
Oui, parce que Captain America n'apparaît pas du tout dans cet épisode.
Mais en attendant, pour un special, en général, on a eu des mauvaises surprises hein, récemment sur certains numéros de Spider-Man qui étaient soit des annuals, soit des specials.
Et ouais, il y avait eu un autre triptyque l'année dernière qui était plutôt pas mal aussi.
Oui, c'était sur les
avec,
ouais, avec les X-Men.
Ouais. Celui-ci je l'ai pas lu par contre. Moi je pensais à celui avec Hulk.
Ah oui.
Qui était pas mal écrit. Une bonne petite histoire qui était aussi encore une fois presque plus intéressante que ce qui se passait dans les comics à l'époque puisque c'était encore Spider-Rock. Ah oui, on remarque ça commence à remonter là. C'était encore avec Spider-Rock et j'avais préféré.
Ah oui, je me souviens. Mais il y avait aussi les jeunes X-Men, c'est le même dont on parle.
Oui, il y avait les jeunes X-Men, oui, d'accord.
Ouais.
Parce qu'il y en a eu un autre sur Uncanny X-Men il y a pas si longtemps.
Ouais, c'est vrai qu'il était avec Nova et Iron Man, mais ça je l'ai pas lu non plus. Mais ouais, ça
c'était, c'était déjà en 2013, en fait. C'était le supérieur Spider-Man Team Up Special avec le truc qui s'appelait The Arms for Octopus.
Ouais, c'est ça.
Je me rappelle ce jour-là, il faisait jour.
en tout cas, ce special de Spider-Man, c'est une très bonne surprise.
Ouais, très très bonne surprise. Bien écrit, des dessins qui étaient très agréables.
Oui, c'est pareil, c'est très détaillé. Hein. Il y a plein de petites, de petites choses à regarder sur chacune des cases. C'est pas du travail fait à la va-vite. C'est très dynamique aussi, même au niveau des poses. La partie graphique m'a beaucoup plu.
Ouais, un nouvel arrivant aussi, un de ses premiers travaux professionnels comme ça, en tout cas chez Marvel. Non, vraiment, vraiment très bien. Du coup, bah, bon petit bail en fait.
Ouais. À noter quand même, alors il est un peu plus gros, mais il est quand même un peu plus cher aussi, il fait quand même $5. Mais il y a quand même de quoi lire et
une trentaine de pages, on le lit pas en 3 minutes, quoi.
Ouais, voilà.
Donc on va continuer avec toi, Bruno, tu vas nous parler du New Avengers 31, grosse révélation dans ce New Avengers.
Oui, un numéro charnière dans le run d'Hickman. C'est scénarisé donc par Jonathan Hickman avec au dessin, on a Kev Walker. Et ça s'appelle le numéro Rabou Malal, puisqu'on va avoir effectivement l'identité de cet être qui était dans l'ombre depuis le départ, qui était peut-être celui qui est à l'origine des incursions, ou est-ce quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Et on va aussi en apprendre un peu plus sur les Black Swan et les White Swan qu'on avait vus au début du run de New Avengers, puisqu'on va suivre les Black Priests qui attaquent le château des White Swan, les Black Priests qui sont actuellement sous le règne de Doctor Strange, et en attaquant les White Swan, il va découvrir qu'en fait Rabou Malal, eh bien son identité, c'est peut-être quelqu'un qu'il connaît. Donc voilà, gros twist. Un twist qui au final n'est pas...
C'est Mordo Dormammu, tu sais, le truc.
Non, c'est pas si... Enfin, on pouvait s'y attendre, on va dire.
C'est la personnification d'Agamotto.
c'est pas spécialement dans un personnage que Strange côtoie très souvent, mais c'est un personnage très important dans l'univers Marvel. Et quand
Par
on
pitié,
connaît...
dis-moi que ce n'est pas un anagramme.
Ce n'est pas un anagramme.
Ok,
mais Jay, c'est les anagrammes.
Mais c'est ce que je, le seul indice que je peux donner, et qui est déjà quand même un assez gros indice, c'est que quand on connaît Jonathan Hickman, on peut se douter de qui ça peut être.
C'est Red Richards.
Voilà, je ne dis rien. Mais
non, c'est Red Richards, t'as dit voilà, je ne dis rien, donc c'est tout. Tu m'entraînes.
Mais
mal,
en tout cas, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, c'est des choses qui ont été placées petit à petit dans son run, et il y a effectivement plein de références qui permettent de conclure ça. Et quand on y réfléchit, eh ben, c'est assez logique comme choix. Et par contre, le rôle de Rabu Malal est peut-être pas exactement le rôle auquel qu'on pensait au départ, et ça c'est assez intéressant. Donc voilà, donc un numéro charnière qui est pas non plus excellent, c'est-à-dire qu'on en a eu des meilleurs, mais qui au moins apporte la réponse à la question que tout le monde se pose, ou pas. Et voilà. Et donc pour moi, c'est quand même un petit bail.
D'accord. C'est incroyable comment j'ai pu faire l'impasse sur tout ce run.
Ce qui est marrant, ils auraient dû faire en fait comme révélation que Rabu Malad, c'est Thor, la Thor actuelle. On ne connaît pas l'identité.
C'est peut-être elle.
Pour troller, pour bien troller, tu sais.
C'est peut-être elle.
C'est quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité encore. Donc, voilà.
Continuons avec toi, Bruno, Guardian Steam Up numéro 2.
Oui, alors là, on va aller très très vite. C'est écrit par Brian Michael Bendis. Avec,
ah, bah, c'est pour ça.
et pour ce numéro, bah, malheureusement, ce n'est pas Art Adams. Alors après, on perd pas trop au change, parce que c'est quand même Stéphane Roux et Jay Leiston qui s'occupent de la partie graphique.
Putain,
déjà,
qu'on a fait
comme c'est la suite directe de ce qui se passait dans le numéro précédent, j'aurais bien aimé quand même continuer avec du Art Adams, même si c'était pas du grand Art Adams, c'était quand même assez sympa. Là, c'est pas non plus du très grand Stéphane Roux. C'est-à-dire, on a vu quelques comics qu'il a écrit récemment, qu'il a dessiné récemment, qui étaient un peu plus sympas.
Là, mais attention, il y a un ancrage de Jay Leiston. Hein? Ça peut peut-être jouer.
Ouais, ça peut peut-être jouer aussi, ouais. Mais non, c'est surtout qu'en fait, autant on partait sur un numéro 1 qui était assez rythmé, avec pas mal d'humour, de bons dialogues, alors effectivement énormément de références au cinéma, autant dans ce numéro 2, le scénario est vraiment hyper banal, hyper relou, hyper chiant, et au final il se passe très très peu de choses, avec une résolution vraiment vraiment frustrante, et vraiment j'étais très déçu par ce numéro 2. Donc voilà, le numéro 1 ça passe pour les dessins et pour bah voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Art Adams à l'intérieur. Mais alors le numéro 2 et le scénar de Bendy, c'est vraiment tout pour Rave, donc moi c'est limite un passe quoi. Donc c'est voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps sur le numéro, c'est pas génial. Ça servait vraiment pas à grand-chose de créer un nouveau titre gardien si c'est pour faire ce genre de truc.
Oh, Bruno colère, Bruno pas content. Bruno colère, Bruno pas content.
J'aime bien quand on va dans mon sens comme ça.
T'aimes bien ça, surtout quand t'as le cul en arrière.
Mais quand on va dans mon sens, qu'on recule, qu'on va dans mon sens, qu'on recule. Ça te va comme ça? C'est assez obvious.
C'est assez.
C'est dégueulasse. Non, mais c'est dégueulasse. Je suis choqué.
Eh bien, passe ta frustration sur cette prochaine review, puisque c'est toi qui vas nous parler du Spider-Man 2099 numéro 10.
Ouais, avec le maestro, ce fameux Hulk de Futur Imparfait. Et donc,
qui est décidément partout en ce moment. Hein.
Ouais. Peter David est au scénario, donc logique. Will Sliney est au dessin. Et on a du Fabella à l'ancrage ou à la colorisation, je ne sais pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Antonio Fabella, voilà, à la colorisation. Donc, c'est simple. Suite à Spider-Verse, le Spider-Man de 2099 s'est retrouvé dans l'univers du Hulk de Maestro, hein, ce Hulk donc du futur qui a une grosse beubare et qui est pas content et qui est assez méchant et qui a une salle de trophées assez impressionnante dans laquelle il conserve un petit peu au fait toutes les armures les armes des adversaires qu'il a vaincu et on voit qu'il a vaincu à peu près tout l'univers Marvel. Et donc, Spider-Man 2099, Miguel aura fort à faire.
C'est qu'il a perdu beaucoup de pouvoir, il a été nerf, c'est pour ça. Ah, si tu connais pas le dialogue MMORPG, tu peux pas comprendre.
Ah oui, voilà, bon, alors voilà, j'ai pas cherché.
Mais c'est que t'as fait une vanne sans t'en rendre compte.
Oui, mais souvent, de toute façon, ma vie est une grande vanne. Et du coup...
Non, le moment de solitude que tu viens de te taper,
voilà.
Là.
Miguel donc va avoir fort affaire à se défaire de Maestro, mais en plus il va croiser sur sa route le Docteur Strange de cet univers, de cette réalité alternative qui est un petit peu différent de celui qu'on connaît. Il a moins de moustaches. Et puis voilà. Oui, enfin c'est une femme hein, en l'occurrence, le sorcier suprême, le Docteur Strange de cet univers. Donc voilà, donc ils vont former une sorte de team-up pour essayer de se sortir des griffes ou plutôt des grosses paluches de Maestro. Et bah, il va y avoir un twist assez intéressant, ma foi, dans ce numéro que je n'ai absolument pas vu venir, comme Peter David sait en faire quand il a les mains libres et quand il peut écrire ses scénarios. Donc on est sorti de Spider-Verse et c'est tant mieux puisque Peter David peut revenir aux affaires. Par contre, Will Sliney au dessin, un petit peu de mal parfois avec lui. Il y a certaines pages où c'est bof bof, hein. C'est quand même bof bof. Il y a des problèmes de position de personnage, de proportion. Là, je vois un Garth par exemple qui est dans une position absolument ridicule. Bon, voilà, c'est il y a à boire et à manger au fait dans ces dessins. Mais sinon, bon, très très bon moment quand même en compagnie de Spider-Man 2099. Donc c'est un bail pour moi.
On continue avec toi, Bruno, qui va nous parler cette fois-ci de Spider-Gwen numéro 2. Comment s'annonce la suite, hein? Tu étais le seul à le
Ah, mais
lire hein,
nous
d'entre nous.
n'attendions que ça!
Alors c'est écrit par Jason Latour avec au dessin Robbie Rodriguez. Toujours la partie graphique qui est la partie principale et la partie la plus intéressante du comics, puisque c'est quand même très très joli et j'aime beaucoup moi le
Il n'y a
style
pas de scénario, donc
de Robbie
mine de rien.
Rodriguez. Par contre effectivement le scénario j'ai trouvé que c'était quand même assez moyen ce numéro à nouveau. Autant le premier bon il y avait la nouveauté malgré le prologue on avait
Il y
quand
avait la
même
nouveauté de la vieillesse.
là on a quand même un scénario qui avance pas des masses et qui
Oh
en
putain,
fait
si on l'avait lu, Benny, j'imagine même pas ce qu'on en dirait, quoi.
Alors, Spider-Gwen qui après sa rencontre avec le Vautour et ce fail immense se retrouve à avoir des visions, elle voit Spider-Ham qui lui parle et qui joue un petit peu le rôle de Jiminy Cricket
Oh là là, là,
et
ce,
on va la
ce, ce
voir en
rôle à
fait
la monsieur MXY machin ou à la Batmite.
L'intrigue, ça tourne autour du fait qu'elle a perdu son téléphone et elle a peur que quelqu'un le retrouve et que tous ses secrets soient dévoilés. Et ça va revenir sur sa relation avec son père, sur sa relation avec son groupe de musique. Et en parallèle, on va avoir une intrigue qui se développe autour du Kingpin et du rôle de Daredevil dans l'univers de Spider-Gwen. La partie avec Daredevil, celle qui m'intrigue le plus, parce qu'effectivement on a un Daredevil qui est complètement opposé à ce qu'il est dans l'univers 616, à savoir qu'il travaille pour le Kingpin et c'est un bon gros pourri. Ça peut être sympa de continuer à développer cette histoire, mais par contre pour le reste, ce qui se passe entre Gwen Stacy et son père, je trouve que c'est pas super bien écrit, et on a un cliffhanger qui est assez naze en fait. Et assez décevant. Voilà. Donc quand même une déception ce numéro 2 qui effectivement graphiquement c'est une baffe parce que c'est quand même très original et très joli, mais qui au niveau de son scénario, ben j'ai peur que Jason Latour ben, nous refasse un peu du Wolverine and the X-Men, c'est-à-dire des trucs un peu mauvais comme il avait fait il y a quelque temps.
En fait, le téléphone de Gwen Stacy sonne dans le pantalon de son père. Elle se rend compte que c'est son père qui lui a volé son téléphone. Oh, le méchant. Non, mais pour être un petit peu comme Steve, ouais, hipster et tout, là, c'est de la merde. Moi, franchement, on me volerait mon téléphone. Les gens ne sauraient absolument rien sur moi. Autant mon PC, peut-être, mais mon téléphone, non. Comme quoi, voilà, quand on est jeune maintenant et qu'on
Non mais toi t'es un
on
mec
fout tous ses
qui utilise
secrets.
même pas Twitter ni Facebook donc c'est normal.
Voilà, exactement. Mais ça
Ouais,
lui apprendra, ça
enfin,
lui fera les
tu
pieds à Gwen
sais,
Stacy de foutre tous ses secrets sur son téléphone.
je suis autant sur Twitter et Facebook et pourtant je n'y vais jamais ni l'un ni l'autre et preuve en est ils sont même pas installés sur mon téléphone non plus. Hein.
Non mais voilà, je pense que si je perdais mon téléphone, bon, ça me ferait chier de perdre mon téléphone, certes, mais pour autant, voilà, je serais pas du tout dérangé que les gens apprennent quelconque secret que ce soit, puisqu'il y a strictement rien à savoir,
Non mais
par
c'est ça,
exemple.
on peut être geek et ne pas être sur les réseaux sociaux 24-24 quoi.
Bah tant pis pour elle, voilà, ça lui apprendra.
Bon, en tout cas, voilà, moyen un tout petit check-it.
ça me fait bien rire. Passons à toi, Benny, tu... Non, non, mais vraiment, enfin, voilà, ça sentait la catastrophe et bah, c'est en train de se produire, quoi. Star Wars numéro 3, Benny.
Ah oui, alors Star Wars numéro 3 par donc John Cassaday au dessin et avec un scénario de Jason Aaron. Alors bon, je vais être honnête, Troisième numéro, et je commence déjà à m'emmerder un petit peu sur cette série, hein. C'est-à-dire que là, je pensais qu'on avait fini avec cette espèce de bataille dans laquelle étaient lancés Luke Skywalker et toute sa clique, et puis Darth Vader, hein. Ils ont attaqué une espèce de... Alors je sais plus, je crois que c'est un entrepôt d'armes, je sais même plus d'ailleurs ce que c'est exactement. Comme quoi, hein, ça m'a passionné. Toujours est-il que je croyais qu'on avait terminé avec cette bataille et qu'il s'était tiré d'affaire. Mais non, ça continue. Toute une partie du comics, donc c'est essentiellement une scène d'action avec Darth Vader qui essaye de choper Luke, qui vraiment est obsédé par ce Jedi qu'il a déjà défait une fois. Alors donc du coup il essaye de voilà de régler le compte de Luke Skywalker. Bon, quelques répliques sympas, voilà, c'est très cinématographique effectivement, hein, mais bon, le style de Cassaday, donc toujours assez statique, même si c'est très beau, fait que dans les scènes d'action, bah voilà, c'est quelquefois ça fait mouche et quelquefois non, ça fonctionne pas vraiment. Par exemple, Luke Skywalker sur son, alors excusez-moi pour les fans de Star Wars, je ne connais pas le terme, espèce de moto volante des soldats de l'Empire là, je sais plus comment ça s'appelle.
Les bikers.
Bon, bah voilà. Bah, on a l'impression qu'il est à l'arrêt quoi en permanence, alors qu'il est censé, être en, enfin voilà, il est censé être censé être à pleine vitesse. Bon, c'est un petit peu gênant. Et puis sinon, bon bah oui un cliff mi-figue mi-raisin avec quelque chose que l'on voit à la fin. Apparemment on va peut-être apprendre des choses sur Luke Skywalker, des secrets, voilà. Bon, sans plus.
Je change, c'est les Spider Bikes, ça s'appelle.
Ah, les Spider-Bikes, bah tiens, en
Voilà.
plus.
Parce que les bikers, c'est les biker scouts, c'est le nom des troopers qui sont sur ces Spider-Bikes.
D'accord. Bah, il manque plus que la Spider-Mobile et puis ils sont complets.
Et c'est parfait.
Non, mais à quand le super crossover avec Darth Devil qui se bat contre les Jedi de la main, quoi?
Non, mais ne donne pas d'idée, ne donne pas d'idée.
Des idées de merde, surtout.
Voilà. Donc, ouais, voilà. Je préfère nettement Darth Vader que Star Wars, définitivement.
Bon, ben voilà.
Bah, je suis tout seul à l'avoir lu, cette
Oui,
fois-ci.
j'ai pas eu le temps de le lire cette semaine.
On termine avec toi, Bruno. Tu nous parles de Miles Morales, Spider-Man numéro 11.
Oui, et c'est mon coup de cœur de la semaine. Alors, je vous ai parlé d'un numéro super mal écrit par Bendis qui était tout pourri, avec Gardien de la Galaxie Team Up. Celui-là est très très bon. Donc, Bendis au scénario, David Marquez au dessin. Ultimate Spider-Man, c'est son bébé. Il le
David Marquez,
maîtrise.
c'est le danseur, non?
Hein?
Non, rien.
Quoi? On a utilisé une connerie,
Non,
hein.
non.
Non, mais j'ai pas compris non plus David Marquez et j'ai pas compris la fin.
C'est le danseur?
Oh putain, ouais, on aurait mieux fait de pas la comprendre, celle-ci.
Ouais, je pense qu'on aurait dû carrément lui couper le micro, en fait. Mais bon.
Ben, ça sera peut-être fait au montage.
Couper le sifflet.
Alors, Ultimate Spider-Man, c'est le bébé de Bendis, ça se sent. Il l'écrit très bien. Il y a son intrigue qui effectivement était quand même assez lente puisqu'on en est qu'au numéro 11 alors que la série a commencé il y a quand même un petit bout de temps. Il y a eu quelques retards, je pense. On arrive sur l'avant-dernier épisode d'Ultimate Spider-Man, c'est quand
Bah, on
même
en est au
assez
numéro 11,
important.
donc l'intrigue a commencé au numéro. Enfin, je veux dire, ça fait 11 numéros, quoi.
Oui, mais je veux dire ça au
Non,
niveau
on l'a
en
commencé
temps.
trois runs précédents, trois relaunch avant, en fait.
Ouais.
Ouais, c'est vrai.
On est dans
Elle a commencé en
l'avant-dernier
2001, en fait.
numéro d'Ultimate Spider-Man, c'est-à-dire que le 8 avril 2015, ce sera la fin, la dernier numéro d'Ultimate Spider-Man de Bendis. Après, il y aura la fin de l'univers Ultimate. Et là, on a un petit peu la résolution de toutes les intrigues qui tournaient autour de Miles Morales. Ce qui lui arrive actuellement et qui concerne justement sa copine, c'est voilà, il se retrouve dans une très mauvaise situation avec Katie et ses parents. Ça va se développer petit à petit. On va découvrir si un autre personnage de l'univers Ultimate va être mêlé à cette histoire. On en apprend un petit peu plus aussi sur des sortes de voleurs qui ont l'air d'avoir des pouvoirs de Spider-Man, qui vont affronter la nouvelle Black Widow. Et pour l'occasion, on a droit à une scène d'action qui est très très bien foutue et très bien dessinée par David Marquez. Les coups sont vraiment bien rendus. Et voilà, donc ça se lit très bien, les dialogues sont très bons, et on n'a qu'une envie, c'est de découvrir maintenant le fin mot de l'histoire et le dernier numéro d'Ultimate Spider-Man, qui marquera la fin quand même d'un run assez incroyable pour Bendis sur le personnage de Spider-Man dans l'univers Ultimate. Donc un bon gros bail pour celui-là.
Bah, il a quasiment été le seul à l'écrire, hein, de toute
Bah voilà,
façon.
c'est ça, donc c'est quand même assez impressionnant, hein.
Alors pour tous ceux qui se disent il y a beaucoup de Marvel, il y a beaucoup de Marvel, il y a beaucoup de Marvel cette semaine, effectivement il y a beaucoup de Marvel cette semaine et pourtant nous n'avons même pas traité la moitié, si tout juste la moitié de la publication Marvel de la semaine. Il faut que vous vous en rendiez compte, cette semaine Marvel avait sorti 21 singles.
Ah, c'est la folie, ouais.
21 singles, on en a traité 11.
Et c'était leur grosse série, hein. Il y a quand même du Miss Marvel, du Uncanny, du All New X-Men, du Fantastic Four qui sortait cette semaine aussi.
L'avant-dernier épisode.
Ouais, du Deadpool, du Captain Marvel, du Ant-Man, enfin c'était Silver Surfer, c'est la folie.
Silver Surfer, alors ça m'a fait marrer, c'est l'épisode 10, là franchement il y a eu du retard. Quoi. C'est
ah oui, mais il y a du retard, oui.
Là,
la série qui sort
là, c'est une série que j'ai complètement lâchée parce que voilà, je me souviens même plus du dernier épisode
quoi.
Que j'ai lu.
Non mais c'est la série à lire en TP quoi, c'est clair.
Ouais, voilà,
donc voilà, si vous dites il y a beaucoup de Marvel, oui, et à partir de maintenant, ça va être comme ça toutes les semaines chez Marvel. Ce sera pas comme ça dans les Comics Weekly, clairement, puisque Benny et moi avons décidé clairement de réduire la voilure, hein, vis-à-vis des projets
Marvel.
Ah bah j'en
sais rien, alors tu m'inclus tout de suite dedans, moi j'en sais rien.
Vu ce qui est annoncé pour Secret Wars, tu le dis toi-même que
après,
ça t'attire pas.
Non, moi j'ai dit je jugerai sur pièce, donc falloir
après
que
au mois de juin, toutes les séries régulières s'arrêtent, hein. Il y aura que les mini-séries Secret Wars et 2-3 séries.
Le mois prochain, il y a quand même 59 titres Marvel.
Au mois d'avril et au mois de mai, il y en aura beaucoup, effectivement. C'est à partir de juin que ça réduira un petit peu.
Oui, enfin, ils n'ont pas encore annoncé tous les projets Secret Wars.
Moi, je dirais toujours autant de Marvel que de DC, enfin, que d'indé. Je vais essayer d'équilibrer au maximum. Bon, bah voilà. Après, c'est sûr qu'il y a plein de trucs que je lirai pas. Hein.
Moi, honnêtement, j'en avais que 3 hein, cette semaine chez Marvel. Bruno, il avait un stock de ouf. Il y en avait 7, je crois, si
ouais,
il
ouais,
compté,
ouais.
Ou 8 même.
Pas mal de séries que je suis assidûment.
Ouais, donc effectivement, il y avait beaucoup de Marvel cette semaine parce que la production Marvel était très importante. Au contraire de DC, alors certes, on a fait que 2 titres DC. DC n'a sorti que 11 singles dans l'univers New 52. Je compte pas les digital, je compte pas les trucs comme ça. Je compte pas le Arkham qui est basé sur l'univers du jeu vidéo. Voilà, dans l'univers New 52, il y avait que 11 sorties.
Eh ouais. 10 de moins quand même, c'est énorme.
C'est énorme.
Puis c'était pas leur grosse sortie.
En plus,
pratiquement le double, quoi, en gros, allez, on va dire de Marvel, quoi, quasiment.
Heureusement, ils nous n'ont pas assassinés sur les TP cette semaine, puisque les TP chez Marvel, on a le Avengers Quicksilver qui sort, bah, pour le film, hein, évidemment. Ça vaut $35 et ça va reprendre la série Quicksilver qu'il avait eu en 13 épisodes, ainsi que les Heroes for Hire, la série de 1997, épisode 15-16, ainsi que le Heroes for Hire et Quicksilver Annual 98. Hein. Vous voyez que ça commence à dater, hein, ça date de 1998, toutes ces séries 97-98. C'est du George Pérez au dessin, notamment, si vous avez envie de découvrir ce que peut donner Quicksilver il y a 15 ans dans une série solo. Une série qui a vraisemblablement pas marché, hein, puisqu'elle s'est arrêtée au bout de 13 épisodes. Néanmoins, ça peut toujours intéresser peut-être de découvrir une ancienne version de Quicksilver, même si finalement c'était suite à Onslaught, hein, qu'il avait eu sa série et qu'il revenait sur ses origines à Wundragore Mountain, etc. Chose qui n'est plus le cas actuellement.
Il y a des choses qui ont changé.
Voilà. L'autre TP de la semaine, c'est quelque chose qui sortira vraisemblablement en français, mais si vous ne voulez pas attendre, il s'agit du deuxième acte de George Romero's Empire of the Dead. Les 5 épisodes de la mini sont compris dans ce TP à $20. Voilà. C'était vraiment pour avoir 2 TP chez Marvel, parce que sinon, tout le reste sort déjà en VF. De toute façon, il n'y avait que 4 TP chez Marvel cette semaine. Donc, pour dire à quel point il n'y avait rien, quoi. On passe à la partie indé maintenant. On va démarrer avec une nouveauté chez Oni. Il s'agit de la nouvelle série de Cullen Bunn. Je ne sais pas comment ce mec arrive encore à écrire des trucs. Mais comment fait-il? Sérieux, il a des esclaves qui écrivent pour lui, c'est pas possible.
C'est possible.
Ça s'appelle Hellbreak. C'est illustré par Brian Churilla. J'espère que je le prononce bien. avec une colorisation de Dave Stewart. Alors c'est un monde qui est résumé vraiment, alors c'est le premier épisode, en tout cas à ma connaissance, il n'y avait rien eu de fait sur cet univers avant, et il y a un très gros résumé, il y a un petit résumé sur la page de garde où on a les créateurs de cités, qui est absolument important à lire parce que ça permet de bien comprendre les bases de ce monde. C'est un monde dans lequel les âmes peuvent s'échapper de l'enfer, et d'ailleurs il n'y a d'ailleurs pas qu'un enfer, il y a plein de versions différentes de l'enfer, et les âmes peuvent s'en échapper. Et les âmes peuvent être piégées à tort en enfer, et des équipes assistées par notamment l'Église peuvent pratiquer des espèces de rituels afin d'aller sauver des âmes. Voilà grosso modo le pitch de départ, et c'est justement ce que l'on va suivre, une équipe qui va aller chercher une âme en enfer.
Ouais, tout à fait.
C'est... Oui, pardon, excuse-moi.
Une équipe un petit peu façon G.I. Joe, avec des archétypes de personnages militaires. Le commandant, le mec super bourrin, la nana assez précise, le sniper, l'intellectuel, voilà. Mais chacun avec leur petit caractère, et une équipe assez sympathique qui sont sous la direction effectivement de quelqu'un qui a l'air d'être lié à l'Église. Et c'est un bon numéro introductif pour l'univers.
Voilà, ils vont. Un démon s'est échappé, a pris possession d'un corps, et du coup l'âme de qui était dans ce corps est coincé dans un enfer et promise à un sort absolument dégueulasse.
Ouais.
et donc ils vont aller le libérer. C'est efficace, ça rentre dedans, il y a quand même un petit peu à lire, mais ça rentre dedans. On est bien pris dans l'univers, une version de l'enfer, hein, puisque voilà, comme c'est dit, il y en a plein de différentes. Cette version est vraiment horrible et j'ai pas envie d'y aller du tout. Mention spéciale aux créatures à deux bouches.
Ouais. Ils font la Java, mais je préfère quand ils ont leur masque, hein.
Putain, ouais, mais et puis même, attends, on te retrouvait enchaîné avec des slips kangourous, c'est quand même la honte, quoi.
C'est clair.
Imaginez saut, mais dans enchaîné comme dans saut, mais avec un slip kangourou, tout de suite, ça décrédibilise le truc, quoi. Bref, non, franchement, c'est efficace. J'ai pas grand chose de plus à dire, ouais. Lisez-le, franchement,
moi,
c'est
je trouve
très sympa.
Ce serait un pitch parfait pour une série télé, je trouve que ça serait excellent. Il faudrait des moyens, ouais, quand même pour
alors
représenter.
Alors pitié, pas sur sci-fi, quoi.
Ouais, il faudrait représenter les enfers un petit peu avec originalité, mais en tout cas le pitch est assez intéressant. Et il y a un argument massu quand même pour acheter ce numéro, c'est quand même qu'il est qu'à $1.
Ah oui, carrément, ouais.
Et ça... voilà, donc c'est quand même un super numéro assez intéressant qui en plus, voilà, c'est quand même une histoire quasi complète. Ça pourrait presque être un one shot qui développe juste sur la dernière page un début de fil conducteur. Mais c'est un très bon numéro introductif, et donc à $1, faut pas cracher dessus, quoi. C'est un bail, quoi.
Ouais, et c'est assez marrant comment le dessinateur arrive à avoir un trait assez gros sur certaines cases, et très très fin, très très méticuleux, très plein de détails sur d'autres.
Oui, c'est vrai.
C'est assez impressionnant, quoi. Heureusement, il y a cette espèce de petit côté un peu cartoony qui adoucit un peu, parce que avec quelque chose de plus photoréaliste, ce serait vraiment insoutenable, je pense.
Ouais, ça pourrait être assez horrible, mais moi j'aime bien le pitch, j'aime bien l'idée, et ouais. Et voilà, et puis c'est pas cher, et puis
bah donc, yeah. c'est aussi un argument, hein. C'est vrai qu'un comic c'est $1, c'est pas grand chose, lisez-le, ça vous plaît, bah tant mieux, vous pouvez continuer. Ça vous plaît pas, vous avez engagé $1, quoi, vous en avez pas engagé 5 comme chez Marvel. C'est quand même un argument assez important. Non mais vraiment,
bon petit bail
pour ce premier numéro. Continuons avec Mr. René Bunny, qui nous parle aussi d'enfer sur Terre, de choses qui se font manger et tout, puisqu'il nous parle de Walking Dead.
Oh, quelle transition. Robert Kirkman est au scénario, Charlie Adler au dessin, Stefano Godiano à l'ancrage, et tu disais des choses qui se font manger. Je ne sais pas si c'est ce qui arrive à Carl au début, puisqu'il était, rappelle-toi, en charmante compagnie à la fin de...
Scène dégueulasse, tu oublies, s'il te plaît.
Voilà.
On peut le révéler maintenant.
Lydia, non, on va pas le révéler, parce que on s'est quitté sur une scène effectivement choquante et vraiment dégueulasse. C'est peut-être l'une des images les plus dégueu d'un Walking Dead, même la plus dégueu d'un Walking Dead, et vous ne devinerez jamais ce que ça pourrait être, parce que vous allez tous penser, quelqu'un qui se fait écraser la tête à coups de batte, etc. Mais Non, c'était différent et c'était vraiment pire que tout. Mais toujours est-il que donc on retrouve Lydia.
Ouais, pire que tout finalement. Enfin, non parce que
ça,
bon,
ça dépend de,
ce que c'est,
des gens, des sensibilités des gens,
mais,
on va dire.
Mais finalement, ne fais-tu pas la même chose ?
Je t'assure que franchement, j'ai beau réfléchir à ce que tu me dis, non. Voilà.
Ah, des chairs ouvertes comme ça. Bon, bref, c'est. Allez, continue, non, vite.
Je fais pas la même chose. Lydia, donc, c'est son nom, hein, cette mystérieuse jeune fille qui a été recueillie par le groupe de Maggie, hein, puisque c'est elle qui chapeaute au fait tout ce village de survivants avec Carl. Donc cette fameuse Lydia a pour le moins intrigué Carl et puis a gagné un petit peu ses faveurs et sa confiance, hein, n'est-ce pas, puisque bah concrètement les deux ont tiré un coup, voilà. Carl a l'air quand même satisfait de cette aventure, et tu m'étonnes d'ailleurs. Lydia, quant à elle, bon bah, on sait pas trop si elle a fait ça pour le manipuler, pour l'avoir sous sa coupe, ou si elle est vraiment sincère, en fait, c'est assez ambigu. Et on apprend aussi que
le voulait groupe, peut-être plutôt sous sa coupe.
On apprend surtout que le groupe duquel elle faisait partie, ces espèces de whisperers, hein, ces gens qui murmurent, hein, ces gens étranges, l'aurait peut-être violée. En tout cas, c'est le point de vue de Carl, mais selon elle, il n'est même plus question de viol, puisque la société a changé, donc c'est vraiment des gens très 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 bizarres.
Ça s'appelle une société ouverte, monsieur, ça.
Oui, voilà, tellement ouverte que.
Oui, envoyez-moi vos headmails, voilà, allez-y, c'est pas grave, je suis habitué maintenant.
Maggie, meilleure imitation du monde. Maggie, elle faisait l'objet d'un coup d'état, hein. Il y avait des gens qui se révoltaient au sein de leur petit groupe, qui essayaient de l'empoisonner, tout simplement. Est-ce que ça va mal finir? Bah, je vous laisse découvrir tout ça. Et puis surtout, le petit groupe de Maggie va aussi avoir une proposition de la part des Whisperers, qui est de tout simplement leur rendre des prisonniers contre Lydia. Et bien sûr, Carl s'y oppose, puisqu'il se rend compte que Lydia était peut-être pas bien traitée par ces gens-là et que elle est peut-être beaucoup mieux avec eux. Et puis surtout, il a pas envie de la perdre, quoi, tout simplement, hein, puisque ça devient sa nouvelle love interest. Donc voilà, il est pas du tout d'accord avec ça. Donc comment les choses vont se dérouler? La tension est à son comble.
Surtout celle de Carl dans son pantalon.
Voilà. Ma foi, c'est pas mal, bien que le cliff est assez convenu dans cet épisode. Ça m'a un peu saoulé, je dois dire. Et puis il y a un truc que je comprends pas du tout, enfin un truc totalement aberrant, c'est quand même ces fameux Whisperers qui portent donc constamment des espèces de peaux dégueulasses en putréfaction au-dessus de la tête, ils ont des mouches qui leur volent autour d'eux constamment, ils sont des centaines et des centaines apparemment, déjà ils doivent puer, ça doit être atroce, mais surtout, point de vue hygiénique, non mais c'est juste pas possible quoi.
Dans une société comme ça, l'hygiène elle a plus court, de toute façon déjà tu vis pas au-delà de 30 ans donc...
Non mais c'est ça, voilà, mais c'est-à-dire qu'ils devraient tous mourir, ils devraient tous être infectés, enfin, non, comment, sérieusement, peut-on prétendre qu'on vit 24h sur 24 dans une société avec de la peau morte sur la gueule, là, comme ça, en putréfaction? C'est pas possible.
C'est pour renforcer les anticorps.
Sérieusement, non mais voilà, enfin, il y a quand même des trucs, tu vois, qui sont un peu embêtants, quoi. C'est un peu ridicule, par certains aspects.
Tu sais, si tu nettoies bien la peau et tout, que tu mets de la javel, nickel, hein.
Là, on est dans un monde de la Walking Dead,
hein.
Y a plus de javel.
Non, mais là, on se rend compte que de toute façon, chez eux, c'est niette. Alors, ils se sont rasés la tête, visiblement. Enfin, pas tous, d'ailleurs, cela dit. Pas tous. Bref. Toujours est-il que, voilà, mis à part quelques petites choses qui me dérangent, ça reste pas mal, ça reste intriguant. Bon, un cliff qui est pas super original. Disons que cet épisode, c'est un petit bail, quoi. Voilà, c'est moins surprenant que la dernière fois, mais en même temps, il était vraiment allé chercher loin.
Nouvelle série, Bruno, en indé encore, Southern Cross.
Oui, c'est écrit par Becky Cloonan, avec au dessin Andy Bellinger, et à la colorisation Lee Loughridge. C'est un récit de science-fiction.
Un peu barré.
Un peu barré. Non, c'est pas trop barré. C'est assez simple à comprendre. Contrairement à un autre titre dont je vais vous parler après.
Oui, j'ai lu la moitié, je ne l'avais pas mis sur le conducteur, mais j'en ai lu la moitié, on en parlera tout à l'heure.
Alors, ça va nous raconter l'histoire de Alex Brace, qui est une jeune fille un petit peu rebelle, qui a longtemps été considérée par sa famille comme étant un peu une loseuse et celle qui amène toujours le bordel, quoi, et qui va partir en expédition sur Titan en prenant un vaisseau spatial qui part de la Terre, un vaisseau spatial qui s'appelle le Southern Cross, et elle se dirige sur Titan pour aller enquêter, enfin, faire une sorte d'enquête pour découvrir ce qui est arrivé à sa sœur, puisque sa sœur est morte. Elle travaillait sur Titan, elle était secrétaire, je crois, elle travaillait dans l'administration d'une société qui utilise justement Titan comme une réserve de fuel et de produits polluants et compagnie. Et elle est morte là-bas, et donc elle va là-bas pour essayer de récupérer sa dépouille et en savoir un petit peu plus sur les circonstances de sa mort. Et en fait, l'histoire, probablement vu le titre du comics, va se passer majoritairement pendant le transit entre justement la Terre et Titan, puisque comme le vaisseau s'appelle Southern Cross comme le comics. Et on va découvrir petit à petit les différents personnages qui sont dans ce bateau, comme le capitaine, l'amiral, des militaires, des ouvriers, et une jeune femme qui fait la même chambrée que l'héroïne. Qui se retrouve, enfin qui est probablement mêlé à l'enquête policière sur la mort de sa sœur. Il y a un petit côté mystique, on va dire, à un moment où on va découvrir les entrailles du vaisseau et on va découvrir le réacteur gravité qui est à l'intérieur, qui semble émaner, duquel il semble émaner des manifestations assez étranges. Et qui amène un petit côté barré, effectivement. Mais pour le reste, je pense que ça va être une enquête. Et pour l'instant, c'est pas trop mal. Graphiquement, c'est assez joli, c'est assez propre. Il y a encore une utilisation de la couleur. On va dire, ça devient, c'est plus vraiment original maintenant, puisqu'il y a quand même des pages entières qui sont teintées, soit vert, soit rose, soit orange, soit. Enfin, il y a de plus en plus de comics qui font ça pour amener plus ou moins une émotion, autre chose comme ça, mais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal rendu dans ce numéro. Et voilà, et puis le personnage principal est assez charismatique, assez intéressant. Donc une bonne lecture.
Je sais pas pourquoi, Bruno, hein, tu vas me dire si je me trompe, mais bizarrement, ton pitch me fait un peu penser, attention, c'est que un peu, à Galaxy Express 999.
Ah, bah alors je connais pas trop Galaxy Express, j'ai vu quelques épisodes il y a longtemps, mais peut-être, effectivement, c'est peut-être
c'est très léger, hein, ce vaisseau, cette quête, etc., que les choses se passent sur le vaisseau, enfin, je sais pas,
peut-être,
pour moi, ça me fait penser à ça, mais ne l'ayant pas lu, je peux pas...
Voilà, c'est pas le comics le plus original, mais c'est quand même une bonne lecture, et c'est un numéro à $3, un numéro image avec de bons dessins en plus, donc pour moi ce sera un bon check-it, ce Southern Cross numéro 1.
On va continuer avec du Image Spawn Resurrection, pardon, le one-shot avant de repartir sur la suite de la série, le numéro 251, un one-shot qui est écrit par Paul Jenkins avec des dessins de John Boy, c'est le... numéro qui va nous expliquer un peu pourquoi Spawn est revenu à la vie à la fin du 250. Je vais être honnête, c'est franchement long à lire, c'est pas intéressant, j'ai trouvé ça très mou, très chiant, et l'explication est quand même assez bateau.
Petit bateau.
J'ai envie de dire que vous pouvez passer, quoi. Vous pouvez passer, ce sera forcément rappelé dans le 251. Vous pouvez passer ce numéro. Vous allez pas manquer grand chose. Voilà. Spawn discute avec Dieu qui prend une image qui le rassure et qui lui dit, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que t'as pas envie de reprendre les armes et de remonter sur Terre, botter le cul un peu de tout le monde? Et on savait que de toute façon, à la fin du 250, il revenait. Là, on comprend juste pourquoi. Bah ouais, j'ai été déçu. J'ai été franchement déçu. Pour moi, c'est un pass, quoi. Vous pouvez zapper ça et passer au 251 le mois prochain. Peut-être. Ça dépendra du 251 si la reprise par Paul Jenkins, enfin la suite par Paul Jenkins. Si c'est aussi peu intéressant que ça, je pense que vous pouvez abandonner, quoi.
C'est juste un one-shot, en plus.
Oui, c'est un one-shot, ouais.
Malheureusement, moi, l'image de Spawn que j'ai, c'est graphiquement, c'est intéressant, mais alors après, c'est toujours verbeux et chiant. Voilà, c'est l'image que j'ai de Spawn depuis des années, et ça fait 20 ans que j'attends que ça change.
Mais rappelle-toi, ce numéro 250 était pas mal, était bien rythmé, ça pétait de partout, c'était
Ouais, mais
l'apocalypse.
enfin, c'était long quand même.
Bah,
C'était
c'était
long pour
long,
ce que
certes,
c'était.
mais c'était
C'était très
l'apocalypse, ça
verbeux.
pétait de partout. Bon, bah voilà, il y avait au moins des choses qui bougent. Là, il se passe rien, quoi.
Ah non,
Franchement, il
mais
se passe
je veux bien
rien.
te croire que c'est encore moins bien, enfin que c'est pire quoi ce numéro, mais enfin voilà, moi je pense que Spawn ne sera pas sauvé encore une fois et que McFarlane le laissera toujours dans le même ton et bon c'est juste chiant quoi.
Honnêtement, il fait la moitié de la taille du 250 et je relirai le 250 avec plaisir.
Ouais bah moi pas par contre, tu vois.
Je
Donc
non, je me suis vraiment merdé dans cet épisode, quoi. Alors
je
après,
veux
c'est
bien te
peut-être moi
croire et.
qui j'ai peut-être
Ah
outgrown
non, non, mais
Spawn, quoi.
je veux bien
Je
te
suis
croire. Moi,
peut-être passé.
je l'ai feuilleté et franchement, ça m'a donné aucune envie de le lire. Je me suis dit, ok, ça a l'air d'être long, verbeux, chiant. Non, bah ça, franchement, ça m'intéresse pas. Ça aurait été écrit par McFarlane, ça aurait été pareil. Justement, je m'attendais à ce qu'avec un nouvel auteur, tu vois, ce serait un peu plus
Bah,
digeste à lire, un peu plus fluide.
on devait avoir Brian Wood, hein, rappelons-le, hein.
Ouais, ça aurait été Brian Wood, mais même, je pensais que Paul Jenkins pouvait être aussi un peu plus fluide qu'un moins laborieux qu'un Todd McFarlane. Et puis, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est même pas la peine.
Mais ouais, non, non, vraiment déçu, quoi. Ça m'embête parce que j'étais vraiment super heureux de ce retour du 250. J'avais vraiment hâte de lire ce nouvel épisode, ce one shot, et puis d'aller voir la suite. Alors j'espère que cette parenthèse était vraiment juste une parenthèse et que ça va repartir sous de bons auspices pour le 251. Mais malheureusement, là, j'attends vraiment beaucoup moins le 251 que ce que je pouvais l'attendre le mois dernier, quoi.
Moi, j'aurais aimé, mais par exemple, bon, pour vraiment prendre un exemple complètement extrême, un Bendis sur Spawn, quoi, histoire qu'on ait
Bah,
vraiment un Spawn très fluide et oui, je sais, il a fait Sam et Twitch, donc
et
bon, c'était pas
c'était
loin,
tout
mais
sauf fluide, hein. Ces épisodes de Sam et Twitch étaient très verbeux,
ouais,
hein.
c'était très verbeux. Mais bon,
Ils étaient très bons, par contre. C'était très bon, mais...
j'aimerais un Spawn un peu plus, voilà, à l'ère d'aujourd'hui, quoi,
Bah,
vraiment.
un Tim Seeley, des mecs comme ça qui écrivent pour Image, qui ont écrit sur des projets et qui sont vraiment bons. Ça
Bah,
aurait été
une
cool.
lecture qui coule de source, quoi, agréable à lire, pas un truc, pas une espèce de bloc comme ça, là,
Je vais
c'est
laisser le
indigeste.
bénéfice du doute, moi. Je vais laisser le bénéfice du doute à Paul Jenkins pour le 251, mais j'ai de grosses craintes maintenant. J'ai de très grosses craintes.
Bah, en plus, il avait déjà fait du spawn et
Et
c'était pas
c'était pas très
mémorable.
bon, ouais.
Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi, j'étais super content d'apprendre que ça allait être relaunché, que Brian Wood, donc un nouvel auteur, allait pouvoir s'essayer à Spawn. Et puis maintenant qu'on sait que c'est Jenkins, bah ça m'intéresse beaucoup moins et je pense même pas que je vais réessayer.
Donc bah, je vais être honnête, c'est un pass. Zappez-le et vous aurez le résumé, juste ce qu'il y a d'intéressant dans ce numéro, bah dans le 251. Honnêtement, le simple fait d'avoir un spawn qui se trouve dans les limbes et qui a lui-même choisi la crucifixion, c'est adressé dans le comic en disant c'est tellement obvious que tu te prends pour un martyr, mais ça en est ridicule en fait. Ça en est ridicule.
Bah, il y a
Passons.
Asbin, hein, j'ai l'impression.
Bah ouais, peut-être. Passons à une autre série Image, Bruno, hein, ce que tu disais tout à l'heure, la science-fiction barrée. J'ai eu le temps de lire que la moitié. J'ai arrêté pour cause de mal de tête. Non,
Cause de
j'exagère un peu.
malaise.
The Surface numéro 1. Ah bah le malaise, il est sur la première page. Hein. Ah le malaise, il est sur la première page. Une chatte, une bite.
Bon, bah, pour toi, c'est vraiment un malaise. C'est
Ah non,
plutôt
mais enfin,
un plaisir.
t'es d'accord, Bruno? Je
oui,
veux dire,
c'est une
ça peut pas
représentation
être plus
qui fait
équivoque.
beaucoup penser à ça.
Ah bah avec les phrases, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu sais ce que je suis?
C'est ça.
Oui, c'est bon, j'ai compris tout de suite, merci.
C'est un comics donc qui est écrit par Alan Scott avec au dessin nous avons Langdon Foss à la colo Jordi Belair une mini-série qui sera en quatre parties si je me trompe pas.
Oui, c'est marqué sur la cover, de
Voilà.
façon bizarre, mais c'est marqué.
Et qui va nous intéresser à un monde futuriste dans lequel la technologie est devenue hyper envahissante, dans lequel les hackers sont les terroristes les plus recherchés.
Bah, grosso modo, hein, pour simplifier le monde, c'est expliqué très vite. En gros, toute votre vie est connectée et toute votre vie est sur les réseaux sociaux. Et en fait, vous avez un bouton pour ne pas partager ce que vous êtes en train de faire.
Voilà, c'est l'inverse de vouloir partager ce qu'on fait, c'est...
Un monde dans lequel Bunny s'est suicidé. Donc.
Voilà, exactement. Et du coup, le pitch est assez intéressant parce qu'on sent que l'auteur veut essayer de faire une critique un petit peu de la société actuelle, mais il accompagne ça d'une narration qui est quand même assez complexe, basée avec une double écriture, c'est-à-dire qu'il y en a une voix off. On sent que c'est quelque chose ou quelqu'un d'omniscient qui nous parle, qui nous décrit l'univers dans des rectangles, voilà, avec parfois des allusions en plus qui sont assez étranges puisque on a des astérisques sur certaines phrases du narrateur
Ouais, qui...
qui nous indiquent qu'en fait il s'agit d'indices pour comprendre qui il est et voilà
Mais
que tout fera sens à la fin du comics.
moi je crois avoir déjà trouvé un Bruno, notamment avec un des premiers indices qui est donné.
Ouais, voilà. Donc, on peut effectivement se faire une petite idée. Et
J'ai envie de te dire, pour rester cryptique pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, qui auraient envie de découvrir l'épisode, j'ai envie de te dire, c'est ce que l'on voit sur la deuxième page, deuxième case. À mon avis, c'est ça.
c'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais
Je reste vraiment très cryptique. Ceux qui ont le comic en main pourront voir. Ceux qui ne l'ont pas encore lu justement et qui écoutent cette émission avant ne seront pas spoilés trop d'avance. Et
pourtant, moi
donc.
je vois tout à fait ce que tu veux dire et j'ai pas le comics en main.
Donc ça c'est
Pas
la
du tout.
partie avec le narrateur qui nous parle justement de ce monde futuriste. Et de l'autre côté, on va suivre le parcours en parallèle du président des États-Unis et de son fils dont il s'est complètement
Un
séparé, c'est-à-dire.
président qui est relativement à droite, hein, quand même, hein.
Oui,
Putain,
très 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 à
qui passe
droite.
son temps à traiter ces espèces de gauchos de merde, il lui répète toutes les deux phrases.
Ouais. Mais il y a un petit côté Warren Ellis, on va dire, transmettre sur certaines critiques, je pense, et voilà
Un peu,
le
ouais.
petit côté Tuxedo aussi,
un
hein,
petit
faut pas
Tuxedo. Oui,
l'oublier.
ça faisait longtemps, Tuxedo.
Bah oui,
Et
comme
donc on
chaque
va suivre
semaine.
le fils
Je crois
du
que c'est la
président.
vanne la plus éculée du podcast, celle-ci, hein.
Ouais.
C'est vrai,
Le fils du
c'est.
président des États-Unis qui donc se trouve en Tanzanie avec ses amis et il essaye de découvrir les secrets de la fameuse surface, qui est une sorte de mythe, de légende, qui est un lieu sur la Terre où en fait on va découvrir que l'univers n'est qu'un hologramme en fait et que notre vie est on nous ment et que tout est faux.
Et c'est Jace, au fait, qui contrôle tout.
Jace. Si tu veux. C'était Jem et les hologrammes, et
Ouais,
Jace est le
c'est
concurrent de la
pas
lumière, mais
Non,
bon.
mais il l'a fait tout à l'heure. Je pensais qu'il se serait rendu compte, mais non, non, il avait fait tout à l'heure
Non,
Jace déjà. Jace et les hologrammes.
ouais, c'était Jace.
Au début de podcast,
Jace
réécoutez,
et
hein, si
les
vous avez raté la
hologrammes.
vanne, mais
Enfin bon, c'est tout naze. Et donc, en fait, ce comics est assez intrigant. J'avoue qu'effectivement, on peut s'y perdre. Faut pas le lire quand on est super fatigué.
Ben oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté, parce qu'en fait, honnêtement, juste avant l'émission, j'ai essayé de le terminer avant l'émission et j'étais en train de piquer du nez.
Voilà, parce que on sent
Pas
qu'il y a quand même un.
que c'était inintéressant, c'est juste que ouais, le coup de barre un petit peu après avoir bouffé.
Puis il y a des grosses
Je suis
explications
vieux maintenant.
scientifiques sur les hologrammes, sur. Il y a beaucoup de choses un petit peu complexes, on va dire, sur.
C'est hyper dense, il y a beaucoup de lectures. Les lectures sont. Il y a de la lecture un peu méta, on a de la lecture sur la première page qui donne l'impression d'être juste de la pub, etc. Non, elles font partie du comique.
Ouais, c'est un gros clin d'œil à l'univers de Verhoeven en plus
Ah
avec.
bah. Do you want to know more? Ouais,
Ouais, c'est ça,
à fond.
voilà. Et le comics en plus est parsemé de captures d'écran en fait comme d'un iPad quoi, avec des articles qui sont présentés. Et
Mais
il y a
c'est tellement un truc à l'univers de Starship Troopers, enfin de Verhoeven, certes, mais c'était pas lui qui avait écrit le bouquin,
Oui.
hein. Que d'ailleurs son nom est cité dans les au tout début, quoi.
Ouais, exactement. Et il y a aussi, au milieu du comics, on a une interview d'un auteur justement fictif. Et l'interview est juste énorme puisque c'est un gros cassage du quatrième mur puisque c'est une interview d'un auteur qui en fait il dit que ce qu'il écrit ça n'a aucun sens, que le sens on le comprendra qu'à la fin. Et le journaliste essaye de lui faire dire, voilà, ce que vous dites, c'est complètement habitable. Comment voulez-vous que le lecteur s'y retrouve? Et l'auteur dit, vous verrez,
Si
vous
je suis
verrez.
Jonathan Hickman.
Et j'avoue que je trouve que c'est un objet assez intrigant. Comme c'est que quatre numéros, je vais y aller pour découvrir un peu ce que Alan Scott a derrière la tête, parce que je trouve ça quand même assez riche et assez intéressant. Même si ça peut être un peu obtus, on va dire.
Alors effectivement, moi je l'ai pas fini, mais je le finirai après l'émission, évidemment. C'est quelque chose que j'ai entamé, j'ai pas arrêté la lecture parce que ça me plaisait pas, j'ai juste arrêté parce que pas eu le temps de finir, quoi.
Voilà.
C'est tout.
Après, les dessins sont, on va dire que c'est assez cartoony, c'est super détaillé par moments sur les décors, sur les. Il y a de très très belles images. Après, les personnages sont très. Alors je sais pas si c'est le même dessinateur, mais ça me fait penser à Pacific, comment s'appelait là le comics chez Image?
Pacific.
Great Pacific.
Great Pacific, ouais, voilà. C'est un peu le même style de dessin. Voilà. Si vous connaissez ce comics, ça vous y fera penser peut-être. Donc voilà. Donc pour moi, c'est quand même un bon bail et j'irai voir la suite avec.
Le
avec
dessinateur
plaisir.
De Great Pacific, c'est Martin Morazzo.
Ouais, bah ça ressemble un peu.
Donc c'est pas le même dessinateur, mais effectivement, c'est un peu dans le même style, ouais. Donc tu as dit hein.
Ouais, un bail.
Un bail, ouais. Moi j'ai envie de dire un check-it. Ça plaira pas à tout le monde, en tout cas de ce que j'ai lu pour le moment, j'ai envie de dire qu'un check-it. Terminons avec toi, Bruno, oui. La partie 1D, nouvelle série cette fois-ci chez Valiant. Il s'agit de Ninjak.
Ouais, je vais aller un peu plus vite. C'est écrit par Matt Kint avec au dessin Clayman. Alors Clayman, ça fait super plaisir de le retrouver chez Valiant. J'aime beaucoup ce dessinateur. Et effectivement pour Ninjak ça passe super bien parce qu'il y a de très bonnes scènes d'action dans ce premier numéro. L'histoire est, c'est un bon numéro 1 aussi puisque ça nous représente à la fois des flashbacks sur la jeunesse du personnage de Colin qui est donc ce Ninjak, des scènes qui se passent dans le présent et qui nous montrent quel est son rôle actuellement. Il travaille là, il fait une mission pour le MI6 et ça va être le fil conducteur de ce premier arc, une mission qui tourne autour d'une infiltration auprès d'un marchand d'armes qui est recherché par le monde entier. Et le fait d'avoir des flashbacks sur l'enfance de Colin, ça permettra de comprendre un peu mieux son caractère. Et donc c'est quand même une écriture assez classique, mais assez efficace. Et je dois dire que j'ai lu ça assez rapidement et je me suis pas du tout ennuyé. C'était quand même plutôt cool. C'est pas non plus hyper renversant. Mais voilà. Donc un numéro 1 assez assez réussi, mais pas non plus extraordinaire. À noter qu'il y a un backup avec une histoire que j'ai trouvé un peu plus relou, qui était écrite aussi par Matt Kint et dessinée cette fois par Butch Guys, qui revient sur une période un peu plus ancienne où avant qu'il devienne Ninjak et où on le voit faire une de ses premières missions d'espion. Et là, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup moins intéressant que la partie principale. Celui-là, c'est, j'aurais dit un pass pour cette partie et un bail pour la partie principale. Voilà.
À noter aussi cette semaine qui est sorti chez Image, enfin surtout son label Topco, le deuxième numéro de Postal qui nous avait excellemment plu le mois dernier. Pas eu le temps de lire hein, pour ma part, je me le suis réservé pour le lire vraiment bien à tête reposée et pas devoir rusher pour l'émission honnêtement, mais voilà, si vous avez aimé le premier ne ratez pas, c'est cette semaine la sortie du numéro 2. Pour les TP de la semaine en indé, eh bien on va démarrer avec du Dynamite avec la suite, la nouvelle série Vampirella qui sort en TP, ça s'appelle Our Lady of Shadows, ça vaut $25. C'est du Nancy A. Collins hein, qui a repris le scénario avec des dessins de Patrick Berkencotter. Excusez-moi. IDW sort un TPB de Godzilla Cataclysm, hein, cette mini-série écrite par Cullen Bunn, c'est au prix de $20. Un Godzilla plus proche du film, hein, apparemment. Ça vous...
Non, oui, j'ai feuilleté, mais j'ai pas lu cette histoire. Moi, je lis l'autre histoire de Godzilla actuellement, qui est pas mal, mais qui est beaucoup plus what the fuck.
Alors, si vous aimez les Tortues Ninja et que vous avez beaucoup, 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 beaucoup d'argent, sort le Teenage Mutant Ninja Turtles Annual 2012 en version deluxe au prix de $125.
Waouh.
Oui, c'est un hardcover en édition très limitée. C'est l'annual qui était coécrit par Tom Waltz et Kevin Eastman, dessiné par Eastman lui-même, et surtout avec des planches, des storyboards, des layouts dans une version très très grande. Voilà, c'est vraiment un objet de luxe si vraiment vous êtes très très fan des Tortues Ninja.
Mais c'est étonnant que ça coûte si cher pour un objet de luxe même. C'est pas signé par les auteurs, par hasard?
Non, mais c'est une édition limitée, par contre, donc c'est pour
bon,
ça.
$125, putain, quand même.
Ah ouais, ouais. Chez Image maintenant à 10$ pour ceux qui ont des toutes petites bourses. La très 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 bonne série de Jeff Herber et Scott Godlewski. Il s'agit de Copperhead qui sort pour son premier TP. Très 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 bonne série, 10$, ça vaut vraiment le coup.
En tout cas,
s'y essayer,
les critiques sont dithyrambiques et oui, bah pour ceux qui ont les bourses vides aussi. Quasiment.
C'est un bail
absolu, vraiment un western science-fiction très très bien écrit par Jeff Herber qui de toute façon est toujours très bon. Point. Même pas de débat possible. Toujours chez Image, la sortie de Humans au même prix de découverte, 10$. Cette série qui suit un Sons of Anarchy mais version apes, enfin version singe, une série de Kenan Killer et Tom Neely. Assez déroutant mais pas si mal que ça finalement. J'étais le seul à avoir lu
Humans.
J'ai pas continué,
j'ai lu que le premier.
Chez maintenant, alors c'est toujours pareil. J'ai toujours des versions, des publishers différents pour ces éditions. C'est des Judge Red Complete Case Files. Sort le tome 24, vraisemblablement en Angleterre, avec du John Wagner notamment et du Simon Davis pour ce qui est le 24e volume de Judge Red Complete Case Files.
Ah, le fameux Simon Davis. Certains de nos tipeurs s'en souviendront, Simon Davis.
Qui vaut donc 33$. Et aux États-Unis sort la version US du Complete Case Files, qui est bien en retard puisqu'il s'agit du volume 9, avec du John Wagner là aussi, mais du Steve Dillon et du Ian Gibson notamment au dessin.
Ouais. Mais c'est normal. Effectivement, il y a quelques années, on ne trouvait que les versions anglaises puisque c'était les seules qui existaient. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus en retard. Et puis nous, on avait eu les trois premiers qui étaient sortis en VF chez Soleil, mais je pense qu'ils ont arrêté parce que j'en ai pas vu passer depuis longtemps.
Ils sont arrêtés au troisième, ouais, je crois.
Ouais, quel dommage.
Et à chaque fois que ça sort, j'ai des publishers différents sur mes listings de TP. Je comprends pas quoi. Là, la version US est publiée chez Motorbook, alors que des fois, elle est publiée chez Rebellion. C'est incompréhensible quoi.
Bah,
enfin, sachez en tout cas, demandez à votre comic shop.
Tout simplement que ça, peut-être que ça fonctionne pas aux États-Unis et que du coup, ça change d'éditeur à chaque fois.
Je sais pas, c'est assez bizarre. N'hésitez pas à demander à votre comic shop justement. C'est aussi l'avantage d'aller dans un comic shop qui eux vous les commanderont sans se prendre la tête par rapport aux éditeurs.
Ouais. Bah préférez de toute façon les versions anglaises qui à mon avis seront même moins chères à la limite.
Pas forcément. J'ai donné le prix du.
Je sais plus, mais en tout cas moi je les. Enfin en tout cas à l'époque je les trouvais pour pas très cher. Après ça a peut-être changé.
Le volume 9, hein, la version US en tout cas est à 20$. Hein. La version anglaise du volume 24 est à 33$. Donc.
Oula, oui, bizarre. Quoique, oui après ça devient plus cher parce qu'on est en couleur, on passe à la couleur. Donc forcément voilà quoi, c'est des éditions un peu plus chères.
Édition un peu plus chère aussi, il s'agit des Valiant Masters, donc c'est bien sûr chez Valiant, c'est Harbinger en hardcover, c'est le premier volume, c'est une version donc deluxe de la première série Harbinger, celle de 92, avec le numéro 0 à 7, donc en version deluxe avec des explications, notamment des storyboards qui vous montrent comment a été fait le travail sur le dessin en lui-même. Que la partie dessinée, la partie ancrée, la partie colorisée, etc. Il y a des sketchs, il y a des backups qui n'avaient jamais été montrés auparavant, des choses comme ça, du matériel qui vient des coffres de Valiant qui n'avaient jamais été montrés, des travaux préparatoires. C'est véritablement une grosse édition de luxe si vous voulez découvrir l'ancienne version d'Harbinger. C'est notamment du Jim Shooter et David Lafamme qui étaient au dessin à l'époque. Donc 40$ pour cet objet. Et toujours chez Valiant, ça sortira en français peut-être, si Panini continue, hein, toujours Valiant. Il s'agit du 8e volume de Exo Manowar, Enter Armorings, c'est le nom de ce TP, ça vaut 15$, avec les épisodes 30 à 32, ainsi que le numéro 0 d'Exo Manowar. Voilà. Et c'est tout pour les TP de la semaine en indé. On va terminer avec notre partie d'essai, c'est moi qui m'y colle aussi, il s'agit de Action Comics 40, écrit par Greg Pak avec des dessins de Aaron Cudder. C'est un numéro one-shot centré sur Bizarro, Superman se retrouve projeté dans le Bizarro World. Alors c'est un numéro très assez fun en fait. On est dans un numéro assez léger au ton. Peut-être une introduction en quelque sorte à ce que sera la mini-série Bizarro par la suite. C'est plutôt sympa, voilà. Superman arrive sur ce Bizarro World, il a du mal à comprendre comment tout ça fonctionne. Et il se retrouve face à un métallo qui veut annihiler la Terre. Enfin, c'est ce qu'il croit, mais dans ce monde tout inversé, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas, quand survient Doomsday, lui aussi, qui arrive sur cet univers, et Doomsday face à Bizarro, imaginez ce que ça peut donner. Surtout que c'est le Doomsday version New 52, celui qui est un virus.
D'accord.
Voilà. Franchement, c'est fun. C'est pas mémorable, c'est fun. On passe un bon moment. C'est tout ce qui compte. Et puis Aaron Cudder, quoi, c'est très sympathique. C'est très joli. Il fait des bons bizarros bien dégueux. Des espèces de trucs partout.
Pas voilà, lui, non, mais c'est... la couverture est magnifique. Hein.
Non, c'est vraiment très sympa. J'ai envie de dire un bon petit check-it. C'est pas un numéro mémorable, donc c'est pas un bail. Mais c'est un bon check-it si vous avez envie de lire une bonne petite histoire de Superman qui se prend pas la tête. Voilà. C'est un numéro presque comique, quoi. On va passer à quelque chose qui est vraisemblablement moins comique. Il s'agit de Batman Eternal 49, Benny.
Oui, avec toujours la même pool de scénaristes. Hein. On a dû... Pour cet épisode, Scott Snyder et James Tynion IV qui signent l'histoire principale. Kyle Higgins au script. Ray Fawkes et Tim Seeley toujours en artiste consultant. Fernando Blanco signe les dessins. Et puis,
signe le blanc sur les pages.
Voilà. Et Marcelo Maiolo, le fameux, est à la colorisation. Attention.
Alors, je ferai pas la... Non, je vais pas faire la vanne, étant donné que j'ai déjà fait une vanne sur Fernando Blanco, là.
Voilà. Mais quel dommage que nous n'ayons pas encore eu cette vanne pour la troisième ou quatrième fois.
Qui aime beaucoup la sauce samouraï, voilà, si tu veux une vanne.
Voilà. Alors, on laissait le commissaire Gordon dans une mauvaise posture. Il était sorti de prison, enfin, il est toujours dans la prison de Blackgate, mais il était sorti de sa cellule. Et il était face au pingouin et à ses sbires. Et c'était une bien mauvaise posture pour lui, mais il arrive à s'échapper... Pardon. Et à enfermer le pingouin avec lui dans une cellule. Et du coup, on assiste à un moment jouissif où le commissaire Gordon quand même se laisse aller. Et il est tout seul avec le pingouin dans une cellule et il s'en donne à cœur joie, dirons-nous.
J'imagine qu'il doit lui démonter la gueule, quoi.
Et c'est bien marrant quand même de voir le commissaire Gordon qui peut jouer du coup de poing sur la tronche du pingouin. C'est quand même jouissif. C'est peut-être même d'ailleurs le meilleur moment du numéro. Bon, après, on est vraiment dans l'action. Il y a Robin, Red Hood, Batgirl, chacun de son côté, tout le monde affronte un super vilain. Puisque c'est Hush qui, de la Batcave, contrôle un petit peu tout ce qui se passe. Et encore une fois, non mais alors ça c'est incroyable. C'est peut-être le hasard, mais quand même il faut le faire. Snyder. Alors, non seulement il nous ressort toujours les mêmes scénarios avec Gotham City, qui est une ville totalement désertée, apocalyptique.
Je sais même pas pourquoi ils se font chier à la reconstruire, hein, honnêtement.
Non, mais ça c'est une chose. Mais alors là, il y a un autre scénario qui nous ressort tout le temps en ce moment. C'est le scénario où... Alors, c'est l'histoire de Alfred qui est dans la Batcave avec un super vilain et qui affronte un super vilain. Alors, on a vu Alfred face au Joker dans la Batcave, hein, souvenez-vous, cette scène où le Joker est planqué derrière une commode et il arrive quand même à lui couper une main. C'est plus un spoiler, hein, c'est malheureusement ce qui s'est passé. On a l'histoire d'Alfred qui est dans la Batcave enfermé avec Hush et qui essaye donc d'affronter Hush dans la Batcave. C'est quand même incroyable, quoi. On a le même auteur principal et on a quasiment la même scène à, je sais pas, 2 semaines d'intervalle. C'est quand même un peu problématique. Encore, je veux bien que ce soit le même auteur qui nous fasse une histoire similaire quelques années après, avec des quelques points communs comme ça. Mais alors là, franchement, là, ça tombe à 2 semaines d'intervalle. C'est vraiment gros, quoi. Enfin, on a l'impression que c'est toujours un petit peu les mêmes situations finalement. Serait-il à court d'idées? En tout cas, on ne sait pas trop encore.
Tu me poses la question à moi ou si je peux répondre?
Mais toujours est-il que voilà, qui est derrière tout ça? Alors, on n'a toujours pas la réponse nette et précise.
C'est celle qui a remplacé Thor.
peut-être. Peut-être que c'est spoiler, la nouvelle Thor. Puisque spoiler est aussi de la partie.
Allez, plus que 3 épisodes, Benny.
J'ai trouvé ça pas mal, mais bon, franchement, le problème, c'est que ça fait redite, quoi. Snyder recycle ses propres histoires constamment. Donc c'est un peu dommage. Voilà, bon, on verra ce que donne la fin, quoi. C'est surtout ça. Ce sera jugé par rapport au grand final, avec cet épisode double aussi qu'on aura à la toute fin.
Pour ce
Voilà,
qui est
voilà.
d'Alfred, si ma mémoire est bonne, il avait déjà affronté des Talon aussi dans la Batcave. Il avait
Oui,
déjà affronté
oui.
le Joker à l'époque de Death of the Family.
Exactement, exactement. À chaque fois, il est dans la Batcave et il affronte un super vilain avec Snyder.
Et il se fait défoncer la gueule, hein, parce qu'on oublie tout de suite qu'il a fait une
Ah,
mystique sa
alors là, on verra. Là, je vous laisse justement, c'est peut-être la seule différence. C'est peut-être lui qui va réussir à défoncer la gueule de Hush. Je vous laisse voir ça.
Bah, en même temps, vu qu'il est entier dans Endgame, qui se passe après?
Voilà. Donc bon, je vous laisse imaginer, mais hein, franchement, c'est quand même ballot que ce soit aussi similaire. Voilà. Donc bon, un petit bail, ça reste sympa. J'attends la fin. Voilà.
Allez, on termine avec les TP DC de cette semaine. Tiny Titan Return to the Treehouse qui sort en TP. C'est du Art Balthazar qui reprend la mini-série en 6 parties de cette nouvelle incursion d'Art Balthazar dans le monde des Tiny Titans. Ça vaut 13$. Un comic à lire avec vos enfants, mais aussi pour les grands, parce que beaucoup de références à chaque fois à l'univers DC que seuls les grands fans peuvent arriver à comprendre. Et puis Astro City Private Lives qui sort en hardcover au prix de 25$ avec les épisodes 11 à 16 de cette reprise du titre par Kurt Busiek chez Vertigo, évidemment, des dessins de Brent Eric Anderson notamment, et toujours des covers d'Alex Ross, série qui continue, hein, de
Oui.
sortir, c'est... et qui a l'air de plutôt bien marcher puisqu'elle continue, donc
Ouais, ça continue, un bon rythme de croisière.
J'avouerai que je ne la suis pas, hein, malheureusement, pas le temps de suivre tout, hein, on le sait bien. Mais ça me fait quand même de l'œil, il va falloir que je me mette au TP quand même pour rattraper tout ça. Ben voilà, c'est tout pour cette semaine encore de comics. Une semaine évidemment riche. En tout cas, c'est riche, pas dans votre portefeuille. Beaucoup de choses assez intéressantes, et bien sûr, on n'a pas tout chroniqué, puisqu'on ne peut pas tout chroniquer, évidemment. Ça va être comme ça dans les prochaines semaines aussi, hein. Beaucoup, beaucoup de sorties dans tous les sens. Peut-être trop.
Ouais, on verra. Parce que, au niveau de la qualité, si ça se répercute.
Est-ce que les fans pourront arriver à suivre avec toute cette avalanche de titres qui arrivent dans les prochaines semaines?
Là, il faudra
On
nous
verra bien.
écouter pour savoir quoi éviter et quoi acheter.
Et surtout, on suivra avidement les chiffres de vente, voir si les répercussions sont assez importantes. En tout cas, comme d'habitude, hein, vous connaissez le principe, Facebook, le Twitter, @ComicCity, et puis évidemment tous les anciens épisodes sur le site ou sur iTunes. Et si vous voulez nous envoyer des mails, vous pouvez le faire à l'adresse podcast@comiccity.fr. À la semaine prochaine, portez-vous bien et comme d'habitude, lisez plein de comics.
Ciao, ciao! Meaning right now better be out.